Bon midi, Québec. Il est exactement midi. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101 pour l'émission On en jase. Avec Jeff Fortin, Pascal CV. Émission sur l'heure du dîner où on parle d'actualité, de politique. On fait le tour des sujets qui vous intéressent. Et Antonine Iaccarini, qui est dans le caucus Iaccarini, me disait « Hey Jeff, faut absolument que je fasse une vidéo pour dire aux gens télécharger l'application. Écoutez-nous via l'application, c'est facile. Il est midi, paf, tu pars ton application et tu vas pouvoir écouter Boulevard 102.1 et le meilleur de l'actualité. » Ben, c'est justement ce que je vous parle à l'instant parce que saviez-vous qu'on a une nouvelle application à Boulevard 102.1? Alors, partout où vous allez, que vous soyez en road trip, au chalet, au travail, en visite chez de la famille ou même dans le sud, restez connectés avec nous. Il y a plein de moyens de nous écouter en direct. Téléchargez l'application gratuite disponible sur Apple et Android pour avoir toujours BLVD à portée de main. Écoutez BLVD aussi sur votre web radio. Et si vous avez un haut-parleur intelligent, dites simplement « Écoutez BLVD 102.1 » avec votre voix de robot. C'est comme ça que ça se dit, hein, une petite voix de robot quand on parle à un haut-parleur intelligent, je pense. Hein? Avec Google Home ou Alexa. C'est simple, vous faites ceci, vous allez pouvoir nous écouter partout. Et pour interagir avec nous, 418-971-1021, le numéro par texto, faites-le. On adore vous lire, en ondes, on adore vous répondre. On est toujours très content de vous savoir là. Pascal CV, t'as passé une belle soirée hier?
Très belle soirée, toi aussi? Oh,
bien sûr, je suis allé m'entraîner. Je suis en feu ces temps-ci.
Ça fait du bien, ça, vois-tu? Ouais. Moi, j'ai fait le contraire, je me suis reposée.
T'as bien
sushi,
fait.
Sushi, petite coupe de vin, parce que je suis sur mes derniers milles, la petite coupe alcoolisée. Puis après ça, un bon gros dodo. Tu sais, une histoire de dodo d'enfant, là, que tu cailles sur ton oreille. Puis j'ai l'impression que notre collaboratrice aussi, ça a été sa soirée hier.
Ouais, mais des gros dodos de bébé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais
depuis que tu as des enfants, c'est
un peu plus tard. Je suis envieuse un peu, mais bon, c'est correct.
Attivant, mais c'est pas une recommandation.
Et non.
Allons-y immédiatement, comme à tous les jours, du lundi au jeudi à midi, avec...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus Iaccarini qui va parler du nouveau caucus des ministres.
Hé là là!
Hé, on va-tu arrêter d'en parler?
Non.
Il l'a-tu étiré, François Legault, la sauce?
Mais là, ça devient intéressant.
Bien, c'est ça. Nous, on trouve ça vraiment intéressant, mais il y a quand même pas mal de monde qui commence à m'écrire pour me dire qu'ils sont tannés d'en entendre parler.
Ouais, ça va-tu aboutir?
Mais, puis on n'a pas le choix, là, nous, d'en parler. Là, c'est trop important, puis il y a tellement de rebondissements. Mais quand les gens commencent à dire, voyons, il me semble que ça fait 2 mois et demi qu'on parle de remaniement, ben oui, ça fait 2 mois et demi.
Vox Pop télévisuel en ce moment, là, où ils vont intercepter des gens à tank à essence, là, puis qui disent « Êtes-vous déçu que Bonardel soit écarté? C'est du bonbon en ce moment. » Tout le monde semble être vraiment à bout de ça.
Mais je me demande pourquoi le premier ministre n'a pas fait son remaniement lundi.
Il aurait dû le faire lundi, en effet, parce que là, c'est 2 jours qui traînent de trop. En passant, Christian qui nous écrit, le gaz vient de monter 12 cents à Lévis. Donc,
parlant de pomper ça.
Exactement. De quoi faire pomper nos auditeurs. Coup de théâtre ce matin, c'est la presse qui l'a sorti à 5 heures. Et je lis textuellement ce que François Bonnardel également écrit sur son compte X à peu près une heure plus tard. Dans les derniers jours, le premier ministre m'a indiqué sa volonté de rajeunir son équipe. Évidemment, je suis extrêmement déçu de la tournure des événements. J'étais prêt à continuer de servir les Québécois et les Québécoises au sein du Conseil des ministres et j'avais clairement indiqué mon intention de me représenter en 2026. Monsieur Bonnardel a souligné qu'il a la ferme intention de continuer à représenter les citoyens de Granby, donc au moins pas d'élection complémentaire jusqu'à la fin de son mandat, mais il n'a pas précisé s'il compte toujours être sur les rangs aux prochaines élections. Antonine, j'ai pas le choix de commencer avec cette question-là. Est-ce l'agneau sacrifié de la commission Galant?
C'est ça le message qu'on reçoit là, aujourd'hui. C'est que moi, ça fait plusieurs semaines que, quand on spécule sur le Conseil des ministres, je dis, M. Legault, il peut quasiment pas tasser Geneviève Guilbeault et François Bonnardel.
Et j'étais tellement d'accord avec toi parce que ton argumentaire était « on vient de donner conclusion de la commission Galant ».
Mais c'est ça. Puis il y a un rapport qui va sortir à la fin de l'automne qui va expliquer un peu qu'est-ce que Maître Galant a compris de tout ça, qui a fauté, dans le fond, c'est qui, là, qui est à tenir responsable dans toute cette histoire-là. Et c'est comme si le couperet tombait déjà. et que du côté du PM, ben c'est François Bonnardel qui en paye le prix. Bon, du côté du cabinet du PM, on nous dit que c'était déjà dans les cartons avant que M. Bonnardel passe à la commission, que c'est vraiment pas une question de commission Galant, c'est une question de renouvellement au sein du Conseil des ministres et que c'est pas possible de monter un Conseil des ministres avec du sang nouveau si on garde tout le monde. Donc, il va y avoir des ministres déçus, des ministres qui sont tassés, qui sont exclus. Bon, on avait vu cette semaine André Lamontagne et Suzanne Roy dire « Nous, on est correct avec ça. On ne se représente pas à la prochaine élection. Donc, on laisse notre siège au Conseil des ministres à quelqu'un d'autre. »
C'était là la différence. C'était le fait qu'André Lamontagne et Suzanne Roy ont décidé de ne pas se représenter. Donc, tu dis « OK, c'est facile, je rajeunis. » Mais là, Bonnardel avait dit « Je me représente. » Un grand ténor de l'ADQ.
Des premières heures là, de la CAQ. Là, il était là à l'ADQ avant, effectivement. Toujours été très loyal aussi, un bon soldat.
Ben oui, un bon soldat qui a tenté de relever du mieux qu'il a pu les missions qu'on lui a données. Alors là, c'est vraiment de venir frapper directement dans ta garde rapprochée. C'est ce qui m'étonne aussi.
Bien, faire un conseil des ministres, c'est un casse-tête. C'est très difficile. Tu as beaucoup d'impératifs à en prendre en considération. Représentation régionale, faut en plus, là, on est en fin de mandat du côté de la CAQ. Tu veux réduire un peu ton conseil des ministres. Surtout quand tu veux dire aux gens, bien là, on va faire des compressions, on contrôle les dépenses. Bien, il faut que tu montes l'exemple aussi en réduisant la taille de ce que tu contrôles, notamment le Conseil des ministres. Dans les derniers mois, il semble que M. Bonnardel, moi, ce que j'entends, c'est qu'il était moins catégorique qu'il allait se présenter en 2026. Cela dit, est-ce que vraiment tous les gens qui vont être nommés demain au Conseil des ministres vont vraiment se représenter en 2026? Laissez-moi en douter.
Laissez-moi douter parce que, tiens, gardons ça. Et là, avant qu'on passe justement au sondage, je veux juste te poser cette question-là. T'es François Bonnardel sacrifié, mais là, jusqu'à date, on n'entend pas de Jonathan Julien sacrifié qui n'a vraiment pas fait un bon travail en capitale nationale. On comprend qu'il ne sera plus ministre de capitale nationale, mais va-t-il garder son portefeuille aux infrastructures?
Bien, en fait, on comprend parce qu'il y a des bruits qui courent, il y a des rumeurs, mais en fait, on ne le sait pas. Hein. Mm-hmm. Je ne prendrai pas pour acquis que Jonathan Julien est tassé. Mais on va voir évidemment ça demain après-midi, 14h.
Tu le mettrais où, toi? Tu le conserverais ou tu le tasserais?
Bien, encore une fois, c'est vraiment un casse-tête. Fait que là, tu prends tout ce que tu as comme siège à distribuer. Puis des fois, le jeu des dominos puis du casse-tête va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont être escapés parce que tu dis, bon, ben il me reste une place, il faut que je nomme une autre personne dans la région, etc. Tu dois prendre en considération aussi les susceptibilités. Ils vont dire qu'ils ne les prennent pas en considération, mais ils les prennent en considération. C'est sûr que si tu as quelqu'un que tu es persuadé qui va... claquer la porte si tu le mets dehors du Conseil des ministres, ben c'est différent que quelqu'un qui va être bon joueur, par exemple.
Mais je te posais la question pour Jonathan Julien en parenthèse parce que c'est quand même un ministre maintenant qui est passé par le municipal. C'est un gars qui connaît la région, qui n'a pas impressionné, par exemple, dans son dernier poste, mais qui a été un cheval de bataille pour François Legault. Fait que je me dis, il ne veut pas nécessairement punir ce gars-là. C'est impossible. Il en a pris des balles. Il a resté discret.
Moi, je pense que l'impossible est possible cette semaine. On verra qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Julien. Ce qu'on entend aussi, c'est par exemple, une France-Hélène Duranceau.
Oui, je voulais te parler de France-Hélène Duranceau parce que pour moi, elle a fait face à énormément de critiques et avec raison parce qu'elle a très mal communiqué.
Plusieurs gaffes
et là,
majeures.
On se souvient aussi de l'épopée des souliers à 1000$ là, quand on vient présenter du logement social. Mais dans la dernière année, elle a livré la marchandise en termes de création de logements. Là. Et là, elle n'a pas réglé la crise du logement. Là, ça va prendre des années avant de la régler.
T'as 100% raison. Et c'est vraiment l'opinion qu'a le premier ministre de France-Hélène Duranceau, ministre de l'Habitation, c'est qu'elle livre la marchandise. Elle trouve des solutions qui sont innovantes, qui sont différentes. Il y a beaucoup de partenaires qui aiment travailler avec elle, partenaires municipaux, mais partenaires aussi promoteurs qui font des projets. C'est sûr que le Frappru, là, qui milite pour les locataires, ils vont jamais dire qu'elle est bonne. Puis en plus, elle leur a donné plusieurs occasions là, de porter flanc à la critique, vu ses déclarations pour le moins maladroites qu'elle a tenues depuis qu'elle est en poste. Mais on peut s'attendre à ce qu'une France-Hélène Duranceau, même s'il y a eu beaucoup de controverses, se retrouve encore autour de la table du Conseil des ministres. Parce qu'il faut le rappeler, nous, là, les médias, là, puis le monde en général, là, c'est sûr qu'on va avoir les yeux rivés vers qui est exclu, qui est fâché. On a tendance à accrocher plus sur le croustillant.
Je les
négatif.
Veux en entrevue.
Ben oui, puis on c'est sûr, OK? Mais à la fin de la journée, le premier ministre, lui, ce qu'il veut monter, c'est une équipe autour de la table. Ouais. Donc, qui est assis là, puis c'est qui les compétences de chacun? Et est-ce que ça va lui permettre, ben, premièrement, de se sortir de la chenoute, parce qu'on va en parler dans deux secondes avec le sondage, ça va pas très bien, mais aussi d'être capable de livrer la marchandise cette année. France-Hélène Duranceau, Christian Dubé, Bernard Drinville, c'est des ministres qui, même si des fois, bien, M. Dubé, je le mets à part parce qu'il est toujours très populaire, mais sont dans les controverses, ils peuvent être dénoncés par les groupes de leur écosystème, là, dans leur dossier, mais à la fin de la journée, ils livrent la marchandise. Un Simon-Jeanette Barrette aussi, c'est un ministre qui livre la marchandise, qui apporte des projets, qui fait des projets de loi. Donc, ça va être un impératif qui va être important pour le premier ministre dans ses décisions, pas seulement qui va avoir de la peine si on les sort du Conseil des ministres.
Jean-François Roberge, là, également, qui fait un excellent travail à l'immigration. On saute au sondage, justement. Ce fameux sondage Palace qui place le PQ en avance à 38 % les libéraux à 27 % Là, vous dites, « Hey, Jeff, tu vas dire la CAQ en troisième comme d'habitude. » Et non, c'est le Parti conservateur du Québec à 15 % malgré sa défaite d'Arthabasca. Et la CAQ est à 11 % Québec solidaire est pratiquement effacé de la carte à 8 % Mais la CAQ à 11 % quand tu as commencé à 90 députés,
incroyable.
Il y a de ça à peine 3 ans c'est une débandade jamais vue, Antonine.
C'est vraiment une chute violente. La CAQ, il faut le dire, c'est un parti qui a apparu avec François Legault, un nouveau parti qui n'avait pas de base militante, qui est très fort sur le marketing politique, etc. Puis quand ça a commencé à descendre, je parlais avec d'autres passionnés de politique, puis quelqu'un qui me faisait remarquer, on ne sait pas c'est quoi le plancher de la CAQ. On sait, par exemple, le Parti libéral, là, peu importe ce qui se passe, là, vous pourriez mettre une boîte en carton à la place du chef puis pas faire campagne. Ils vont aller chercher une vingtaine de comtés. Pareil, il y a une base.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un 18 % 20 comtés, le Parti
Absolument.
Libéral.
Le PQ, il y a des gens, là, jusqu'à leur lit de mort, ils vont être péquistes puis vouloir le pays. Puis il y a un rêve qui est plus grand que juste acquérir le pouvoir. Fait, il va avoir toujours une base, même quand ça allait très, très mal au PQ. Il y a toujours une base qui est solide. Mais la CAQ, c'est quoi la base? C'est ça qui est plus difficile. C'est plus articulé autour d'une personne. Il y a eu beaucoup de compromis, des gens très différents qui se sont joints pour, à un moment donné, mettre fin au règne des libéraux. C'était un peu ça aussi. Hein? C'était après 15 années de règne libéral, il y a pas mal de gens qui se sont dit faut essayer autre chose. Et c'est là que la CAQ est apparue avec ses positionnements plus nationalistes, mais sans le boulet du référendum.
Bien, la CAQ n'a pas de base, t'sais, sauf erreur. C'est un rassemblement d'indépendantistes frustrés. De fédéralistes
plus
déçus,
nationalistes,
fédéralistes déçus du Parti libéral, puis de gens un petit peu plus à droite sur l'échiquier politique
les
avec l'ADQ. Avec l'ADQ. Mais là, le Parti conservateur est là pour les gens à droite. Les libéraux, bon, on parlera de Pablo Rodriguez dans 2 minutes parce que j'y crois pas partout, mais quand même, il y a un petit vent de renouveau qui souffle. Et le PQ avec Paul Saint-Pierre Plamondon passe la gratte. Donc, qui est vraiment un caquiste? T'sais, moi, j'ai posé cette question-là dans mon entourage. Qui est un caquiste? Tout le monde est un péquiste. Tout le monde est un libéral. Tout le monde est un conservateur. Mais quand je dis tout le monde, ces trois choix-là, je les entends. Mais caquiste, je ne l'entends jamais.
C'est plus difficile. Et là, vraiment, la CAQ vit une asphyxie présentement. Elle se fait manger son lunch de tous les côtés. Le lunch de l'ADQ par le Parti conservateur. Les nationalistes retournent à la maison du côté du PQ. Puis les fédéralistes plus nationalistes sont prêts à faire des compromis pour retourner aussi à la maison au Parti libéral, même si c'est Pablo Rodriguez qui a gagné l'élection. Honnêtement, des fédéralistes plus nationalistes, par exemple, qui veulent défendre la langue française, etc., qui sont plus proches des régions, c'est sûr, vont peut-être moins trouver écho auprès d'un Pablo Rodriguez. Mais le Parti libéral qui va vouloir aller rechercher son créneau économique aussi, parce que c'est ça aussi. M. Legault, c'était le créneau économie. Et avec tout ce qui s'est passé, les projets économiques qui ont fait patate, là, notamment Nordvolt, bien là, évidemment, les libéraux plus de chambre de commerce, que j'appelle, risque de retourner aussi à la maison. Donc, il ne reste pas... tout le monde nous mange un petit bout de la CAQ et il ne reste pas grand-chose. Il y a juste Québec solidaire qui fait pire en ce moment pour de toutes autres différentes raisons. PQ qui demeure extrêmement fort. Hein, puis, ils se maintiennent dans les sondages sur une longue période. Parce qu'on disait qu'ils sont montés trop vite, trop tôt, le PQ.
Oui, je suis d'accord avec ça. T'es-tu surprise? Moi, ça me surprend. Je pensais qu'il y aurait un petit ressac, qu'on retournerait vers le 29-30 %, mais là, on est encore à 38.
Ça se maintient. Est-ce que ça va se maintenir encore un an? C'est la question. Puis d'ailleurs, parlons du Parti libéral un peu. Nouveau chef, très discret. On l'a vu en conférence de presse la semaine passée. Il y a un caucus cette semaine. Bon, on le préserve encore, Pablo Rodriguez. Et c'est Marois Risky qui est chef parlementaire, parce que Pablo Rodriguez n'est pas député. Donc, c'est leur député vedette efficace, qui pose des questions tranchantes, qui a des lignes de com' toujours assassines. Très, très efficace, Marois Risky. C'est elle qui va poser les questions au premier ministre quand la session parlementaire va recommencer. Elle vient d'ailleurs de sortir un documentaire sur la réussite scolaire chez les garçons. Mm-hmm. Elle est au top de sa popularité, cette femme-là. Vraiment extraordinaire. Donc, on va continuer de préserver un peu Pablo Rodriguez, essayer de marquer des points avec Marois Risky. Puis éventuellement, il va falloir que Pablo Rodriguez revienne vraiment comme le leader des troupes. Ce qu'ils vont essayer de faire, les libéraux, en tout cas, moi, c'est ce que je ferai à leur place, c'est de créer un momentum plus proche de l'élection. Donc, pour l'instant, on fait monter la sauce doucement. On n'essaye pas, on n'est pas en train de tirer sur tout ce qui bouge là, en ce moment du côté des libéraux. On est plutôt discret.
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce un couteau à double tranchant, Marois Risky? Je m'explique. C'est parce que la sauce peut pogner pas à peu près, là. Elle peut te clencher, François Legault, pardonne-moi mon langage, à l'Assemblée nationale demain matin. Puis là, paf, on va passer de 27 % à 34 %. Mais quand on va arriver dans un débat des chefs avec Pablo Rodriguez, oh my God, on repart 5-6 %.
Peut-être. Il y a le temps, ça donne le temps à Pablo Rodriguez de se faire un peu les dents. Parce que honnêtement, il n'est pas encore de niveau. On l'a vu. En point de presse, on l'a vu dans les débats de la course à la chefferie du Parti libéral. On va se dire la vérité, c'est plus facile à Ottawa qu'à Québec.
Oui.
Tu sais, t'es moins loin, t'es plus loin, pardon, des préoccupations des gens au quotidien. Les journalistes ont moins accès aux ministres. En chambre, là, si vous écoutez, je le sais que ça vous tentera pas bien, mais écoutez une période de questions à la Chambre des communes une fois dans votre vie pour voir à quel point il n'y a pas de réponse aux questions. Si vous trouvez qu'à l'Assemblée nationale, on répond pas, regardez à la Chambre des communes d'Ottawa, c'est terrible. Chaque question, c'est comme oui ou non, allez-vous déposer un plan? Puis la réponse, c'est nous sommes toujours aussi investis à servir les Canadiennes et les
Pourquoi
Canadiens.
Pourquoi on ne brasse pas plus la cage? Pourquoi on n'a pas changé un peu les choses par rapport au respect, aux contribuables, aux voteurs,
Ça a toujours été comme ça à Ottawa. Puis ouais. À Québec, on a une des meutes journalistiques les plus voraces, les plus... Ils n'en laissent pas passer. Ils sont très solidaires les uns avec les autres.
Mais après deux, trois fois, quand ils posent des questions pour l'avoir vécu pendant 10 ans, on arrête aussi parce que là, c'est comme un harcèlement, mais des fois, ils ne vont pas répondre. Pourquoi est-ce que du côté de Ottawa, on change pas un peu la donne, on se permet pas plus un peu, on a peur d'être évincé?
Aucune idée. Honnêtement, je pense que c'est juste une question de culture de travail qui est un peu différente. Si on regarde dans différents parlements à travers le monde, Québec, là, moi, j'ai rarement vu un endroit où c'est plus tough, avec des journalistes qui font vraiment ultra bien leur travail puis des oppositions qui ne lâchent jamais le morceau. Puis quand on ne répond pas, il y a un coup politique à ça qui n'est pas toujours présent ailleurs dans le monde. On a des politiciens qui sont quand même accessibles aussi. Hein.
Avant de montrer des politiciens avec une énergie débordante, c'est-à-dire les politiciens français, parce qu'il faut parler de ce qui se passe au Parlement français, je te fais entendre Pablo Rodriguez à propos de Pierre Dufour, ce député caquiste de l'Abitibi qui s'est fait dire « Dehors, tu seras pas dans le Conseil des ministres pour te parler contre nous. »
Un maudit bon gars. Je l'ai dit, c'est une discussion qui va rester entre nous.
Non, mais
comme de nombreux. Monsieur Dufour, attendez une seconde. Monsieur Dufour vient de vivre un moment qui est difficile. De la part, un geste, à mon avis, injuste de la part de son chef. Et là, je pense qu'il y a du temps pour... Il va prendre du temps pour lui-même. Moi, je respecte ça.
C'est un maudit bon gars. Moi, j'ai entendu sa maman dire ça de trois personnes. Stevens Melançon, Jean Gagnon, puis Hugo Langlois. Les trois sont rendus dans son équipe.
Exact.
Ça veut-tu dire que Pierre Dufour fait le switch aux libéraux?
Écoute, j'écoutais Pierre Dufour en entrevue quand il a été exclu de la CAQ, puis il y a un journaliste qui a posé la question « Est-ce que vous pourriez vous présenter pour le PQ? » Puis il a dit « personne ne me l'a demandé. Il faudrait d'abord qu'il me le demande. »
OK, mais là, il est souverainiste ou fédéraliste?
Mais c'est ça, là. Tu peux pas, tu sais, je veux dire, tu peux pas magasiner au PQ puis au PLQ. Là, ça marche pas, là.
C'est comme si tu magasines au Parti conservateur puis à Québec solidaire, là.
Il y a quoi qui marche pas, là, tu sais, là-dedans. Je sais pas si Pierre Dufour pourrait se présenter pour un autre parti, parce que honnêtement, je sais pas c'est quoi ses valeurs profondes. C'est encore une fois, on revient à la nature de la CAQ. Hein. Mm-hmm. Il y a tellement de gens différents. Par contre, ça me rappelle tellement des souvenirs parce que à un moment donné, sous le gouvernement de Philippe Couillard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais M. Poetti avait été exclu
oui,
du caucus.
Oui, c'est vrai.
Hey, là, on le vantait. Là. Moi, j'étais au PQ à l'époque. Là, puis là, on disait « M. Poetti, un homme droit qui a toujours dit les vraies choses. Hey, » Dégle, là, on avait tous les compliments du monde maintenant qu'il avait été exclu du caucus.
Alors que vous aviez dû le clencher en chambre, ben, pas oui. Juste qu'une fois.
Ben oui, c'est sûr.
J'adore ça. Pour rappel, on est dans le caucus Iaccarini, c'est du lundi au jeudi dans On en jase de midi à 12h30 qu'on a le bonheur de parler avec Antonine Iaccarini, cette spécialiste en politique. Antonine, je te fais écouter un montage qui résume très bien ce qui s'est passé au Parlement français hier et on en parle par la suite.
Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette, déjà insupportable, sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher. Où notre pronostic vital est engagé.
Dans la foulée, c'était au tour des présidents de groupe de l'opposition de réagir, comme Boris Vallaud du PS.
Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été au rendez-vous. Nous n'avons eu que désinvolture, manœuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous faire confiance. Les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts, avec la gauche et les écologistes, à gouverner et à rechercher dans un même élan la stabilité politique et la justice fiscale, sociale, territoriale. Nos choix ne sont pas les vôtres.
Laurent Wauquiez, DLR.
Vous m'aviez dit que vous étiez prêt à entendre la parole et à clarifier la position. Cette parole, nous l'avons attendue et nous ne l'avons jamais entendue. Et je le regrette, je vous le dis avec la même franchise. Parce que si vous aviez écouté La France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine.
Là, qu'est-ce qui se passe en France, Antonine? Parce que la gauche socialiste est contre le Parlement, la droite est contre le Parlement. Qu'est-ce qui fait pas de bien, ce Parlement-là?
Tout le monde est fâché.
Ben, c'est
personne
ça,
n'est
la
content.
Droite, la gauche, on essaie de se placer au centre, ça marche pas. Comment on va dénouer l'impasse? Parce qu'on s'entend, c'est très problématique ce qui arrive présentement en France.
Bon, premièrement, ça va être difficile de dénouer l'impasse. Ça fait plusieurs choses que Emmanuel Macron, président français, essaie et ça ne fonctionne pas. Et il a même déclenché évidemment des législatives en 2024, donc des élections pour élire les députés. Et ça n'a pas permis d'avoir un Parlement, qui, en fait une Assemblée nationale, qui soit gérable. Donc c'est très, très morcelé en fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est que non seulement les partis sont morcelés, donc si on regarde la composition de l'Assemblée nationale, on va voir que chaque groupe politique a un nombre de députés, mais personne ne domine. Donc évidemment, déjà toujours un peu compliqué. Après, on peut créer des coalitions, sauf que le deuxième phénomène qu'on voit à part le morcellement, ben c'est la polarisation. On a une montée des partis plus extrêmes sur le spectre. Donc, on parle d'extrême droite et d'extrême gauche. Donc, notamment France Insoumise, M. Mélenchon. Et ça fait en sorte que c'est très, très difficile d'aller chercher des compromis. Puis, si on regarde la tarte là, de l'Assemblée nationale, le parti du président Ensemble, qui était précédemment En Marche, on a 91 députés. Si on regarde du côté de la gauche socialiste et Nouveau Front populaire, ben on a un autre morceau qui est pas mal égal à celui qui est composé par les Républicains et le Rassemblement national, donc la droite. Donc, c'est vraiment très également réparti entre la droite, la gauche et le centre, là, pour résumer. Donc, c'est extrêmement difficile de gérer. C'est le président qui nomme un premier ministre, qui doit monter une coalition gouvernementale et essayer de passer des lois dans cette Assemblée nationale. Ça fait en sorte que l'Assemblée nationale était très, très peu productive. Donc, on a beaucoup de mal à passer les réformes qui sont attendues. Et ce sur quoi ça achoppe énormément, c'est la question des réformes nécessaires pour devenir un État, la France, qui soit plus efficace.
Hein? Ouais,
on le sent scléroser, cet État-là.
Parce que où sont les dangers, justement, pour la France d'avoir cette Assemblée nationale-là complètement arrêté?
C'est l'inertie.
Oui, et puis là, on s'en va vers des déficits records aussi, je ne me trompe pas.
Déficits records, il y a eu toutes sortes de réformes qu'il fallait faire pour que la France là, soit plus fonctionnelle, plus compétitive aussi avec le reste du monde. On dit souvent que la France, c'est un pays qui est souvent embourbé dans ses processus, dans l'administration, dans des politiques qui ont été difficiles à réformer puis à moderniser au fil du temps. Et dans le deuxième quinquennat, donc le mandat d'Emmanuel Macron, c'était vraiment la volonté là, de faire ces réformes importantes, réduire les dépenses aussi. Il y a eu toute la question, évidemment, qui s'est beaucoup brassée des régimes de retraite. En France, ça a été une saga incroyable. Et là, ben, on a cette Assemblée nationale qui n'est pas capable de fonctionner. Donc, c'est l'inertie. Et l'inertie, ça a un coût aussi. Ça a un résultat. Et c'est ça un peu que M. Bayrou disait dans son discours. Il disait, vous pouvez me faire tomber si vous voulez, mais la réalité, elle ne va pas changer. Donc, il faut continuer le travail. Si ce n'est pas moi, ben, il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse de toute façon.
super complexe au niveau économique. C'est rare qu'on en parle jusqu'ici de l'économie de la France, à part depuis l'instauration des tarifs avec Donald Trump. Par contre, le côté social, c'est épouvantable de voir comment ça peut virer en ce moment. L'alimentation de certains groupuscules, avec la divergence complète entre les deux groupes extrêmes aussi sur les visions sociales de la France. Puis, faut savoir, l'Union européenne, c'est un tout. Hein? Puis, la France a souvent l'idée un peu sur cette facette-là. À travers les années, on a eu beaucoup de complications, des grosses manifestations un peu partout. Ça a monopolisé puis ça a même paralysé la France pendant de nombreux mois. C'est encore le cas. On en parle un peu moins ici, mais c'est ça qui est le poumon en ce moment de la France. Tout ce qui est mesures sociales, tout ce qui est entente là-dedans. Où est-ce qu'on va redéfinir le pays? Puis il n'y a pas de définition. Fait qu'avec ce que tu nous amènes aussi comme information en ce moment, ça complique énormément les choses parce que les mesures sociales ont un impact sur l'économie. Puis il n'y a pas de vision. En fait, personne n'est capable de se brancher sur où est-ce qu'on s'en va en tant que peuple français. Ça a des impacts directs sur notre communauté aussi québécoise parce que c'était vu comme un de nos alliés potentiels pour la suite des choses dans les prochaines années parce que ça s'est affaibli un peu avec les États-Unis.
Bien, c'est ça. T'sais, pendant qu'on vit cette paralysie-là, alors qu'il y a une crise à l'international aussi, mais c'est sûr que ça limite beaucoup l'action du président. Le président français peut faire un certain nombre de choses, mais c'est vraiment l'Assemblée nationale, finalement, qui vote les lois. C'est le pouvoir législatif. Là, on a entendu une Marine Le Pen cette semaine faire un appel à des nouvelles élections, mais c'est pas parce qu'on fait une élection que le résultat va être complètement différent.
Si on se retrouve avec le même résultat, ça ne sera pas mieux.
C'est ce qui s'est passé en 2024. Puis pourquoi Emmanuel Macron avait déclenché des élections en 2024 législatives? C'était parce qu'il voyait cette montée de l'extrême droite et qu'il voulait battre le fer pendant qu'il était chaud et se dépêcher d'essayer de monter une Assemblée nationale où la droite serait limitée là, dans son action. Donc, c'est pour ça que Marine Le Pen maintenant redemande cette élection-là. Ils sentent qu'ils ont en quelque sorte un momentum parce que les idées en ce moment du Rassemblement national trouve écho, notamment chez les travailleurs français. Il y a une fatigue et j'en parle régulièrement dans nos discussions, mais j'ai envie de dire une colère aussi chez les travailleurs, chez le travailleur ordinaire, que les partis de droite et d'extrême droite réussissent à bien exploiter, à apporter des solutions. Alors que des fois, la gauche a un petit peu de difficulté à, reconnaître que les préoccupations de ces gens-là sont valides à la base. Il y a beaucoup des fois de jugement, de se mettre au-dessus du peuple. Je pense aussi aux enjeux d'immigration en France, très, très important, les enjeux du vivre ensemble également. Bien, l'extrême droite en France le trouve vraiment écho auprès de ces électeurs-là. Donc, Marine Le Pen qui voudrait qu'il y ait des élections le plus rapidement possible. Je ne pense pas que ça va régler le problème. Non. On verra.
Antonine Iacarini, merci beaucoup. C'était le caucus Iacarini du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. C'est de midi à midi 30 environ. Demain, on va se parler de ce remaniement ministériel. Je pense que rendu à midi, on va savoir pas mal ça va être qui.
On devrait tout savoir, le rendu là.
Exactement. Donc, à demain, Antonine. Merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Courte pause. Et par la suite, deux choses au tableau. Pascal Cévé qui nous a préparé un très bon dossier sur... Dominique Laroche, cet ex-skieur acrobatique reconnu coupable d'agression sexuelle qui a tenté de mettre fin à ses jours hier. Et également, on aura Martin Tremblay, DG du Centre Vidéotron, pour nous parler des 10 ans de cette belle bâtisse à Québec. Restez des nôtres, vous êtes à On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1.
Si vous êtes en train de trouver ça difficile à midi 34, ce que vous mangez, vous n'êtes vraiment pas motivé par votre sandwich au ballonné, vos restes de la veille, puis ça, c'est si les enfants sont pas partis avec. Si vous trouvez que ça vous coûte cher au quotidien d'aller à la petite cantine du coin, bien, il y a fou de la bouffe qui est là pour vous. Une entreprise d'ici qui livre les repas directement à la maison. Les repas que vous choisissez, en fait, parmi un menu qui est complet, qui est travaillé, de prêt à manger, qu'on a juste à mettre au micro-ondes. Dans 3 minutes, c'est prêt. Qu'est-ce qui est prêt? Soupe ramen, bavette de bœuf sauce chasseur, des pâtes crémeuses à la carbonara allégée, des salades de couscous perlées au saumon avec l'aneth, le saumon, le tzatziki, poulet à la jerk, le riz aux légumes, le bol de riz porc avec une sauce lime coriandre. Peut-être que je vous mets l'eau à la bouche, bien, c'est désiré que je le fasse parce qu'honnêtement, ça vaut la peine de vous faire connaître fou de la bouffe. Pour vos lunchs personnels, arrêtez de manger les restes des enfants. Pour vos lunchs aux enfants, pas besoin de vous casser la tête, de faire l'épicerie, de penser à ce que vous allez mettre. Et également pour tout ce qui est repas familial parce qu'on a pensé à vous. On a des formats qui sont individuels, mais on a aussi des méga-sizes pour le souper. C'est toujours parfait. C'est livré à la maison, c'est frais avec des produits d'ici. On travaille très, très fort aussi pour vous offrir une grande, grande fraîcheur. Fou de la bouffe, allez voir foubouffe.com. Vous allez être conquis, c'est certain.
Le 10 septembre approche.
Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Commande à l'auto, faites attention, pas trop de fast-food. Alimentez-vous bien. Et aujourd'hui, c'est une très belle journée. C'est 17 degrés présentement sur Québec. 22 degrés généralement ensoleillés au maximum. 23 degrés généralement ensoleillés demain. Et 20 degrés ensoleillés pour jeudi. Pour nous joindre, 418-971-1021. J'ai des recherches qui m'ont dit « Demande à Martin Tremblay s'il va y avoir une équipe de cross au Centre Vidéotron. » Écrivez-nous. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir au Centre Vidéotron? Quel est votre plus beau souvenir? Êtes-vous satisfait de cette bâtisse-là? On veut vous lire au 418-971-1021. Exactement midi 38, Pascal, c'est le temps de se lancer sûrement dans le dossier le plus médiatisé des deux derniers jours, c'est-à-dire ce verdict de culpabilité sur l'ancien skieur acrobatique Dominique Laroche.
Oui, l'homme de 65 ans, vous savez, reconnu coupable de 5 sur 6 accusations qui étaient portées contre lui hier. Il y avait un genre de revirement de situation dans le dossier. On va en revenir pendant qu'on en parle ensemble, mais je voulais commencer avec cette entrevue-là que j'ai faite avec Pierre-Paul Biron du Journal de Québec, qui, jour après jour, était au procès de Dominique Laroche, qui en a, en fait, travaillé une shot là-dessus parce que c'est un homme prisé, c'est un homme qui était très connu ici à Québec,
ah oui,
qui n'avait pas du tout la réputation qu'on va lui connaître maintenant. Donc, je voulais savoir comment est-ce que le verdict a été accueilli dans la salle d'audience. On écoute Pierre-Paul Biron.
Écoute, Pascal, c'est quand même très sobre, mais c'était une salle qui était remplie. Il faut savoir que la jeune femme qui est victime dans cette histoire-là était supportée par plusieurs proches. Donc, une salle remplie, mais je dirais que tout le monde s'est gardé de réagir trop émotivement. On sentait qu'il y avait quand même beaucoup de tension, mais au moment où la juge Marie-Claude Gilbert a déclaré Dominique Laroche coupable de 5 des chefs d'accusation qui faisaient contre lui, tout le monde est resté très sobre, mais on sentait beaucoup de soulagement à la sortie de la salle d'audience. Il y a plusieurs embrasseurs, des gens qui s'enlaçaient. On sentait que c'était un poids sur les épaules de la victime et de sa famille là qui tombait après quand même 5 années de procédure, parce que Laroche, on se rappelle, avait été arrêté en juin 2021.
Pascal, c'est un poids qui tombait justement des épaules de la famille et de la victime. J'imagine que ce poids-là, c'est Dominique Laroche qui l'a reçu directement sur les siennes.
Mais j'ai demandé à Pierre-Paul Biron, dans la salle, comment est-ce que Laroche a accueilli, lui, le verdict?
C'est resté quand même très sobre. On voyait le stress monter à la mesure que la juge Gilbert faisait la lecture de son jugement. À un certain point dans le jugement, on comprenait où cette décision-là s'en allait. Et je pense que Dominique Laroche l'a lui aussi compris. On le voyait un petit peu nerveux sur sa chaise, mais au moment du prononcé de la décision de la juge, il est resté quand même, je dirais, froid et distant. Son avocat nous a dit après coup qu'il était évidemment déçu, puis même surpris dans une certaine mesure de cette décision-là, lui qui avait présenté une défense qu'il estimait convaincante. Mais voilà, il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de réaction non plus de Dominique Laroche à sa sortie de la salle. Donc, il a quitté quand même rapidement après le prononcé de la décision. Là.
Je trouvais ça important de revenir là-dessus, sa réaction, parce que effectivement tout le long du procès, il semblait être convaincu de sa version des faits.
Oui, vraiment.
Convaincu que c'était consentant, convaincu, ils ont martelé la défense et lui, que c'était avec consentement, mais surtout après la majorité de la jeune fille, ce qui
exactement
était en opposition avec la version de cette jeune victime-là. On peut maintenant dire qu'elle est victime. Donc, on revient un peu sur toute cette diversité de réactions qu'on a eues, mais surtout l'opposition des versions entre Laroche et la victime.
En fait, Laroche, lui, niait tout geste sexuel avec la victime avant qu'elle ait atteint la majorité. Donc, la version de la plaignante était que les contacts sexuels avaient débuté alors qu'elle avait 13 ans. Il faut comprendre que c'est une jeune fille qui était proche de la famille de Dominique Laroche, et on dit comme ça parce qu'il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de l'identifier directement. Donc, une famille proche de l'entourage de Laroche qui était hébergée chez lui les week-ends durant l'hiver, durant la saison de ski. Donc, elle passait plusieurs week-ends par année à la maison de Dominique Laroche, et elle racontait que les contacts sexuels avaient débuté alors qu'elle avait 13 ans, et tout ça s'est transformé rapidement dans une relation secrète entre La Roche et elle. Elle qui admirait là, l'ancien champion de ski acrobatique, comme d'affaires à succès et tout ça. Donc, elle avait une admiration, elle idolâtrait La Roche et rapidement, La Roche a profité de cette admiration-là pour l'amener vers des relations sexuelles de plus en plus intrusives, de plus en plus intenses. Et donc, voilà, c'est la version de la plaignante que ces relations-là avaient débuté alors qu'elle était mineure. De son côté, La Roche admettait des relations avec la jeune femme, mais après sa majorité, il lui remettait sur les épaules la responsabilité de ces relations-là. Il disait que c'est elle qui avait fait les premières approches, les premiers pas, et qui avait initié les premiers contacts. Et la juge Marc-Claude Gilbert qui a conclu, qui a déterminé là, qu'elle croyait la version de la victime. Elle déplorait dans sa décision que La Roche se présente dans sa défense comme un acteur, une machine même que la juge a qualifié de patenté par La Roche lui-même.
Il faut savoir que parallèlement à ce dossier-là, je ne veux pas faire de sensationnalisme, mais c'est pour ça que je posais des questions, c'est que parallèlement, il y avait une nouvelle accusation qui s'était ajoutée contre Dominique Laroche il y a quelques mois déjà. On était en avril 2025 parce qu'il avait brisé ses conditions de remise en liberté en plein palais de justice pendant son procès. Il s'en était pris verbalement à sa victime maintenant.
Oui, c'est
que je
vrai, je me souviens très bien.
Pour agression sexuelle, il avait lâché un sacre, puis ça avait été intercepté par les constables spéciaux. Donc là, brique de condition, parce qu'il n'est pas supposé l'approcher, il n'est pas supposé lui parler. Et ça, c'est parallèle à. Fait que je me dis, en salle de cours, on vient d'entendre tout ce que Pierre-Paul Buron du Journal de Québec entendait. J'ai posé une question supplémentaire sur les réactions qu'on a eues en salle sur les supplices qu'imposait La Roche à la jeune fille, parce que je me dis, hey, c'est pas nécessairement du sensationnalisme, là. Je me demande juste si, à partir de ce moment-là, on commence à être moins convaincu de la conviction de La Roche qui était non coupable.
C'est évidemment très, très particulier. On sentait une certaine tension, puis c'est mis en place pour l'amener jusqu'à cette sexualité-là. Est extrêmement troublante, là, ouais.
C'est troublant, puis, tu sais, j'ai posé la question, on écoutera ça peut-être plus tard, mais je vais te le raconter à Pierre-Paul Biron sur... Je voulais savoir, souvent, une personnalité connue comme ça, adulée, hein, qui a fait une renommée quand même ici à Québec du ski acrobatique, qui en a vu des personnes, puis qui était proche de plein de gens influents ici. On voit souvent le phénomène psychologique, puis on en parlait avec Gérard Depardieu sur les gens qui disent, ben non, ça s'est pas passé, ben
clairement,
non, c'est pas un homme comme ça et tout ça. Puis j'ai posé la question au journaliste Pierre-Paul Biron, puis ce qu'il me dit, c'est qu'il est toujours venu tout seul en cours. Il n'y avait pas de support, il n'y avait personne qui était à ses côtés.
C'est très étonnant, venant d'une personnalité publique
parlant,
comme ça.
Puis il a dit, il n'y a personne qui a fait comme, ben non, après, parce que je trouvais ça important de
personne
voir.
Personne qui a dit, oh non, pauvre Dominique.
Exact. Je vais terminer avec le revirement de situation. Rapidement, quand ça se passe et qu'il est officiellement coupable de ses actions et de ses 6 chefs d'accusation-là. On l'a laissé reprendre un genre de 24 heures à la maison. Dans ces 24 heures-là, on a appris ce matin, quand il était supposé être incarcéré, qu'il a attenté à ses jours, il a tenté de s'enlever la vie.
Ouais, c'est un revirement de situation. Mon avocat Charles Levasseur qui a annoncé à la juge Marc-Claude Gilbert que son client était hospitalisé, qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Donc, la juge Gilbert, à la demande du ministère public, qui a émis un mandat d'arrestation avec exécution immédiate contre Dominique Laroche. Donc, du moment où il aura son congé de l'hôpital, les forces de l'ordre pourront le cueillir directement là-bas où il pourra se livrer et il devra recomparaître devant le tribunal. Donc, cette audience-là sur l'incarcération a été reportée à une date ultérieure vu ce dernier développement. On est toujours en attente de voir est-ce que Dominique Laroche sera arrêté aujourd'hui. Donc, on attend qu'il reçoive officiellement son congé de l'hôpital. Son avocat disait que ça devrait pas être quelque chose qui pourrait être très long. Donc, ça laisse entrevoir qu'il n'est pas nécessairement dans un état qui était grave, là. Donc, on s'attend à ce que aujourd'hui ou dans les prochains jours, à tout le moins, il puisse être arrêté et ramené devant le tribunal pour la suite des choses. Mais la juge Gilbert qui a déjà laissé entrevoir qu'elle entendait pouvoir utiliser là, son pouvoir discrétionnaire pour peut-être demander l'incarcération immédiate de Dominique Laroche. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines heures, les prochains jours.
Merci beaucoup, Pascal, pour cet excellent dossier. On va suivre ça, évidemment, dans les prochaines heures, prochains jours, parce que normalement, Dominique Laroche devrait quitter les centres hospitaliers quand même assez rapidement, là, comme Pierre-Paul Biron nous le dit.
Oui, puis si vous voulez lire, ben, c'est toujours toujours dans le Journal de Québec.
Yes, alors dossier qui fait énormément jaser à Québec et avec raison, notamment parce que Dominique Laroche est une vedette sportive très connue dans la région et évidemment, bien les crimes qu'il a fait et pour lesquels il a été reconnu coupable sont... Très réprimandables. On ne s'attaque pas aux jeunes filles de cette façon. On passe à un dossier beaucoup plus joyeux, c'est-à-dire 10 ans déjà pour notre centre Vidéotron à Québec. Et on a l'honneur de parler avec le directeur général du centre Vidéotron, Martin Tremblay. Il est au bout du fil. Martin, ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Ben oui, ça va super bien. Martin, comment on se sent en tant que DG d'un centre qui a déjà 10 ans puis qui roule à pleine capacité, on va le dire comme ça?
J'ai peine à croire que ça fait déjà 10 ans.
Ben oui!
On le voyait en construction, on dirait qu'on vient juste de l'ouvrir, donc très excité, puis on va se dire 10 ans d'activités culturelles, sportives incroyables au Centre Vidéotron. On est extrêmement fiers de ce qui est devenu aujourd'hui.
J'ai l'impression que c'était hier que j'entrais pour la première fois dans le Centre Vidéotron pour aller voir Metallica. Je les avais vus le lundi soir dans le Vieux Colisée. Je suis arrivé le mercredi dans un Centre Vidéotron. Ça a sonné une tonne de briques, et moi, Martin, c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point on avait besoin d'un nouvel amphithéâtre à Québec. Le son de Metallica ce soir-là, sans un centre Vidéotron, Martin, on n'a pas les tournées mondiales qu'on a présentement, les artistes de renom.
Non, absolument pas. Puis aujourd'hui, j'entends plus personne qui me dit oh, « on n'aurait peut-être pas dû construire ». Les gens sont tellement fiers. Un, il prend une place dans la ville, on le voit de partout, il est imposant, il est blanc, on le voit de partout, donc il est ancré dans la ville et les gens le fréquentent. Ça va faire, Jeff, 10 ans qu'il est ouvert, on a fait plus de 700 événements, près de 8 millions de spectateurs. Donc, les gens de Québec, ils se sont appropriés, c'est leur centre Vidéotron, puis ça, c'est la plus grande fierté qu'on a.
Est-ce que j'ai le droit de poser une question un peu plus crunchy?
Ben,
parce que moi, je me souviens là, des années où c'était divisé, on s'obstinait pour les coûts, on essayait de chercher du financement, on essayait d'aller tirer l'engouement. Il y en a qui disaient une navette spatiale, finalement, c'est pas beau, mais tout le monde est au rendez-vous. On essaie de remplir avec des artistes de renom et ça se passe. Est-ce qu'il y a encore certaines difficultés associées au Centre Vidéotron pour lesquelles on se bat 10 ans plus tard?
Non, c'est une super bonne question. Puis, au contraire, moi, je vois juste du positif. Puis oui, il y en a eu des débats, comme dans chaque communauté, quand tu as des investissements, il y a des gens pour ou contre, mais j'en entends plus personne qui nous dit « on n'aurait pas dû construire, ça n'a pas de bon sens ». Aujourd'hui, si on le faisait encore, ça coûterait 2 fois le prix. C'est ce qui se bâtit aujourd'hui, ces temps-ci, donc ailleurs en Amérique du Nord. Et on a un centre Vidéotron qui est occupé, on a les plus grandes tournées. Puis, faut pas oublier que, voilà 10 ans, les gens de Québec, toutes l'Est du Québec, parce que le centre Vidéotron, la grande région de Québec, on est la capitale de l'Est du Québec. Donc, on est l'amphithéâtre le plus proche de tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le nord des États-Unis, le Maine, les Maritimes, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, ces gens-là, ils viennent chez nous. Il y a quelques années, et nous-mêmes de Québec, on faisait 2h30 de route, où on se prenait une chambre d'hôtel à Montréal, on allait passer une journée là-bas, on n'avait pas l'offre qu'on a là. Imaginez, on a réussi en 10 ans d'avoir les plus grands groupes sur la planète. Dépendant du style musical, il y a des gens qui ont vu Céline, il y a des gens qui ont vu Elton John, Justin Timberlake, Pearl Jam, on peut en nommer. Puis, je vais juste nous faire un petit clin d'œil, je suis tellement fier de ça. On a réussi à s'établir comme un amphithéâtre qui reçoit des premières mondiales.
Ah oui, Billie Eilish!
Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Si, le 10 ans, on s'était dit qu'on allait avoir en première mondiale Céline Dion qui vient se pratiquer chez nous, qui fait 8 spectacles, Paul McCartney, c'est quand même, on peut tout se le dire, Paul McCartney en première mondiale, c'est un Beatle, c'est une légende.
Paul McCartney a fait revirer la ville de bord avec le 400e de Québec, là. Fait qu'on peut tout se le dire que c'est gros?
Ben oui, puis donc c'est pas le même public non plus. Et l'année dernière, tu l'as mentionné, Billie Eilish qui vient chez nous, qui s'installe pendant une bonne semaine, toute la planète spectacle nous regardait. On était le centre du monde. Pour ces 3 événements-là, on est chanceux d'avoir ça. Mm-hmm. Puis il n'y a pas beaucoup d'autres amphithéâtres au Canada ou au travers de l'Amérique du Nord qui en ont eu autant que nous autres. Fait que je pense que les gens de Québec se sont appropriés. Ils ont le goût de le fréquenter. Ensemble, on fait une super équipe. À toutes les fois, on propose quelque chose de nouveau. Ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'on est capable d'avoir des grands événements comme ça.
Martin, on se le cachera pas. On nous a vendu le centre Vidéotron avec un retour probable des Nordiques. 10 ans plus tard, moi, j'ai lancé la serviette. Je le sais que ça arrivera pas, peut-être que tu me convaincras du contraire. Mais une chose est sûre, est-ce que l'avenir du Centre Vidéotron passe par des événements majeurs comme on a annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire championnat mondial d'hockey féminin en 2027, championnat mondial d'hockey junior en 2029?
La première réponse à ta première partie de question.
Ouais, pour les Nordiques, tu en penses quoi, les Nordiques, même, Martin?
Oui, j'en reviens, c'est Nordique, mais aujourd'hui, le Québec est une grande ville. Puis une grande ville, ça a des infrastructures modernes, puis un amphithéâtre comme ça. On se devait d'avoir un amphithéâtre juste pour les spectacles. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui voulaient avoir les Nordiques, puis c'est vrai qu'il y en a qui le concevaient pour ça. Puis sans même les Nordiques, c'est le plus grand infrastructure culturelle qu'on a de la grande région de Québec, on en avait besoin. Les Nordiques, on l'a essayé, on y a cru. Aujourd'hui, je ne jouerai pas avec les sentiments des gens, je sais qu'on a tellement été déçus. Nous autres, comme promoteurs, la population, ça fait que je ne sais pas si les Nordiques vont être là ou non.
C'est de valeur parce qu'on clencherait le Canadien, Martin, c'est sûr, on est bien meilleurs à Québec.
On a les mêmes rêves puis les mêmes souhaits. Maintenant, on fait quoi quand ça arrive pas? Mais on se retrousse les manches et on amène les plus grands événements. Puis au niveau sportif, il y a quelques réalisations, puis on peut tous être fiers de ça. Les Remparts soient le marché junior le plus grand au Canada. Les séries de 2023 où on va gagner la Coupe Memorial, on a eu 3 soldats au Centre Vidéotron contre Halifax. Malheureusement, on l'a gagné à l'extérieur, pas chez nous, mais ça a été magique. On a eu la WWE qui vient de revenir. On est diffusé à Netflix partout à travers le monde. On vient d'avoir la Ligue des Nations de volleyball 5 jours au mois de juin. On bat le record du plus grand assistance pour un match de volleyball au Canada.
Wow.
On en a des événements. Puis oui, ça donne qu'on l'a annoncé la semaine dernière, mais le championnat mondial féminin de hockey 2027, le junior 2029, honnêtement, on s'est tous offert à Québec le plus beau cadeau de 10e anniversaire. Et ça, ça va être génial. Toute la planète hockey va converger vers Québec en deux années d'intervalle. Ça va se passer chez nous. Il va y avoir des retombées économiques. Ça va être le fun dans la ville. Tellement content que le Centre Vidéotron peut être l'hôte de ça, mais a aussi amené ça dans sa communauté.
En terminant, Martin, il y a plusieurs auditeurs qui nous ont écrit à quand une ligue de cross à Québec? À quand une équipe de la Ligue nationale de cross à Québec? Est-ce qu'on envisage certaines ligues professionnelles comme ça? Je sais qu'on avait fait un essai avec le basketball il y a de cela quelques années.
On l'a fait avec le basket, on l'a fait avec la victoire de Montréal l'année passée en janvier dernier où c'était sold out pour voir une équipe de joueuses de hockey professionnelle. Il y avait du super calibre. Donc, à toutes les fois qu'on peut surprendre la population, proposer un nouveau sport, un événement qu'on signe dans lequel ils vont embarquer, on est tout le temps là. Donc, la crosse, on a étudié à quelques reprises. On se pose tout le temps la question, est-ce qu'il y a assez un bassin de fans? Pas pour voir une game, mais pour voir une saison.
Mm-hmm.
5-10 saisons. Donc, c'est la question qu'on se pose avec la crosse.
Hockey féminin, il y en aura assez, Martin?
Hockey féminin, oui, il y en aura assez. Je pense qu'on a défoncé un plafond de verre. Il n'y aura plus jamais de recul pour le hockey féminin. On s'est rendu un sport important. On aimerait ça avoir une équipe. Malheureusement, ils sont allés en expansion dans l'Ouest où ils essayaient de gagner des parts de marché. Là, je ne pense pas qu'il y ait d'autres expansions au cours des prochaines années. Des dires des dirigeantes de la Ligue. Ils vont vouloir voir le bassin de joueuses pour garder le calibre. Mais on est là, on entretient le dialogue. C'est des gens avec qui on a eu tellement de bonnes discussions, la gang d'Aile. PHF, qu'on les aime beaucoup.
Martin, moi, je te fais un pari après les Mondiaux 2027. Ils n'auront pas le choix, ils vont venir s'établir à Québec. Martin Tremblay, directeur général du Centre Vidéotron, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Je sais que tu es en tournée médiatique et continue de nous faire triper comme ça dans le Centre Vidéotron, que ce soit avec du sport, avec des événements culturels. On est servi à soi à Québec.
Merci de m'avoir reçu. Puis à la population de Québec, merci d'aimer le Centre Vidéotron, d'y venir avec le sourire, de le fréquenter. Puis c'est à vous autres, ça.
Yes. Merci beaucoup, Martin.
Merci.
Salut, bonne fin de journée. Pascal CV, moi, le Centre Vidéotron, ça représente beaucoup. Puis je lisais Karine Gagnon dans le Journal de Québec aujourd'hui, justement, qui marquait, c'est un synonyme de fierté pour les gens de Québec. Et c'est vrai, après les fêtes du 400e, on cherchait à Québec quelque chose pour se rattacher, dire, hey, on est devenu big avec le 400e, il faut continuer dans cette veine-là. Et le Centre Vidéotron est arrivé.
Je pense honnêtement, c'est vrai que ça a aidé, mais ça a tellement été controversé que je suis contente d'entendre, cette conversation-là, puis qu'on se dit, hey, on est rendu ailleurs. On est rendu dans l'acceptation, mais surtout le plaisir qui est derrière. On peut encore accueillir tellement de choses. J'espère que ça va dynamiser le tout. Un peu moins de Kings, par exemple. Là. Mon commentaire.
Les Kings, c'est bien correct, mais pas avec 5 à 7 millions de subventions.
Exact.
Comme les Sénateurs viennent jouer 2 matchs cette année, pas de subventions.
On laisse
au s'installe
privé.
À Québec, c'est ça.
Puis tous les alentours du Centre Vidéotron, moi, je veux faire un clin d'œil au Grand Marché qui essaie de s'implanter. Il y avait la cour arrière aussi cet été. C'était vraiment le fun. Tu voulais un beau 5 à 7. Mm-hmm. C'était là. La grande place devant la place Jean-Béliveau qui est animée, qui a des soirées gratuites de musique. Je pense que ça, on est au balbutiement, même si on est 10 ans plus tard, de tout ce qu'on peut aller exploiter. Puis c'est un beau clin d'œil qu'on peut faire. Et surtout, parenthèse importante. Surligneur, tiens, pas parenthèse.
Ouais.
Au coût ça nous coûterait deux fois plus cher en ce moment si on
le
construisait.
On l'a fait dans le bon momentum. Ouais. Merci à Régis Labombe. Et moi, je rêve de voir le vieux Colisée être enfin démoli puis qu'on ait un quartier à côté du centre Vidéotron, justement, pour qu'il y ait un milieu de vie qui s'installe. C'est ce qui manque dans ce secteur-là. Serge qui dit la crosse, c'est 10 games par année plus les séries. On est capable. Ah ouais, hey, mon Serge, ça... on va convaincre Martin.
Hey, honnêtement, là, la crosse, j'en ai vu à Wendake là, pendant le tournoi l'année passée. Oui. Je suis sans mots.
Ah non.
C'est quelque chose.
Ça frappe
là.
La crosse.
Pardon?
Là. Si vous pensez que le hockey est violent, là.
Allez voir des vidéos, puis tu sais, ils sont tous consentants.
Ah non, non, c'est l'enfer comment ça frappe.
Mais c'est du sportif, là, de haut calibre.
Ouais.
Là.
Vraiment, vraiment,
c'est
vraiment.
C'est impressionnant que t'aimes ce type de sport-là ou pas, à voir tellement que ça joue fort dans tous les sens.
Dans tous les sens, ça, mais c'est très offensif également, donc c'est ce qui fait en sorte que les gens aiment beaucoup ça. On fait une courte pause. Après la pause, c'est l'excellent chroniqueur Rémi Villemur, qui est également animateur au 99.5 Montréal. Rémi, je l'adore parce qu'il nous sort toujours quelque chose du champ gauche. Et là, il veut parler, est-ce qu'il manque vraiment d'argent en éducation ou... on fait des mauvaises dépenses. Rémi s'est penché là-dessus et il nous revient après la pause à On en jase sur Boulevard 102.1.
Tellement contente de vous en parler cet automne. Hébergement Rive-Nord, c'est une entreprise que je chéris beaucoup parce que c'est une entreprise qui change la vie des gens bénéficiaires, mais aussi des gens qui y travaillent. Une entreprise qui est composée de 5 ressources intermédiaires. En fait, on héberge des résidents qui présentent une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme. En 2015, on a fondé tout ça. On est allé continuellement avec la recherche d'innovation, ne jamais arrêter en fait de se perfectionner, de travailler pour offrir quelque chose de mieux, pour améliorer la qualité de vie, la qualité des soins aussi pour les bénéficiaires. Puis quand je vous parlais de ceux qui en profitent, puis je vous disais les employés aussi, bien, c'est juste des gens passionnés, dynamiques, qui vont travailler là-bas. En fait, c'est des éducateurs spécialisés, des intervenants en délinquance, des travailleurs sociaux, puis bien d'autres qui veillent au bien-être quotidien des résidents, que ce soit pour le ménage ou autre. Tout le monde est important, puis c'est ça la cohésion. La cohésion est intéressante dans tout ce qui est hébergement Rive-Nord en termes de travail. Les collègues de travail enrichissent la vie des uns des autres et pas juste aux bénéficiaires. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez intervenir auprès d'une clientèle qui a une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, peut-être vous cherchez un peu votre place en ce moment, puis vous dites « Ouais, c'est pas nécessairement ça que je veux faire dans la vie. J'aimerais ça que ce soit un petit peu plus important, qu'il y ait un impact, puis que ça m'enrichisse personnellement, humainement. » Là, c'est comme ça qu'on en parle, humainement. Bien, va directement sur la page Facebook de Hébergement Rive-Nord. Tu vas voir que ta place est peut-être vraiment là, puis dans une équipe chaleureuse qui prend soin des autres.
Un bébé, un marathon ou une... On en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h. On en jase.
13h06, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. Pour réagir, 418-971-1021. L'application BLVD 101 que vous pouvez télécharger sur le App Store, également sur Android, twitch.tv/BLVD/FM également, pour venir nous regarder, voir notre belle face en studio, et la web radio sur le BLVD.fm. Vous êtes d'ailleurs très drôle par texto parce qu'on a parlé de la Ligue de crosse à Québec. Mais il y a Kim qui nous écrit « Hey mon Jeff, on l'a déjà notre Ligue de crosse, elle s'appelle la CAQ. » Oh Kim! On a également un auditeur qui nous écrit « Mon ado est bon à la crosse. » Ok, j'arrête là. On est rendu vraiment trop loin. Mais là, Pascal CV, pour rester dans la même thématique, on est-tu en train d'apprendre qu'on va payer plus cher notre permis de conduire parce qu'on a fait un fiasco? Ça clique. Qu'est-ce qui se passe là?
Ouais, là, c'est une nouvelle, j'avais vraiment hâte qu'on aborde. On va y aller en manchette pour l'instant, mais le fiasco SAQ clique. Si on pensait qu'on avait touché le fond, celui-là devrait aller vous gratter l'entraille sur un temps parce qu'on parle d'augmenter les frais aux conducteurs pour rembourser le déficit qui a été engendré par tout ce fiasco-là. Donc, les nouveaux systèmes informatiques de la Société d'assurance automobile du Québec qui devraient permettre d'effacer son déficit financier. On veut creuser un genre de gouffre entre vous et le gouvernement, assurément, ouais. Avec une histoire comme celle-là. Pour eux, c'est d'aller cesser l'hémorragie. Mais est-ce que c'est une solution qui va vous intéresser? Aïe, 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 je suis vraiment pas certaine parce que là, on parle de frasques gouvernementales qui nous tomberaient sur la tête et qui nous feraient aller dans nos poches.
J'ai mal géré l'État, je vais charger plus à mes citoyens. Donc, je gérerai pas mieux l'État, je vais juste aller piger plus dans vos poches. C'est ce qu'on lance comme message. On va rejoindre immédiatement direct de Montréal, animateur au 99.5 Montréal, Rémi Villemur, excellent chroniqueur ici à Boulevard 102.1. Comment ça va, Rémi?
Ah, ça va très bien, vous-même.
Ça va super bien. Rémi, moi, j'ai l'habitude, on a l'habitude à Québec de se comparer avec Montréal. On a l'habitude d'être en compétition avec Montréal et de rire de Montréal. On dit, ah, ah, Montréal, ils ont les cônes oranges. Ah, 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 Montréal, ils ont investi 1 milliard dans des pistes cyclables. Mais là, j'ai vu ton post sur Facebook. C'est Montréal qui rit de nous parce qu'on a des citoyens qui veulent pas entendre de bruit sur un terrain de football. Fais-moi pas pleurer de même, s'il te plaît.
Non, mais on rit pas de vous, hein, tu sais.
Non, OK.
Écoute, on a peut-être mal compris ce qui s'est passé, mais moi, me semble que dans la couverture médiatique à Montréal de cette affaire-là, c'est pas mal clair qu'il s'agit d'un petit nombre de personnes qui ont pris très au sérieux un exercice qui n'a pas été pris au sérieux. Là, je pense qu'il y a eu 101 votes enregistrés au total. Et même, moi, j'ai pris la liberté, là, après avoir parlé avec des gens à Québec, de pointer du doigt une certaine génération. Si j'ai l'impression que ce n'est pas des gens dans la vingtaine, dans la trentaine qui sont allés voter le soir du référendum puis qui ont emporté le silence, je pense que c'est plutôt des gens âgés, puis d'ailleurs des gens âgés qui, eux, ont grandi avec 6, 7, 8 frères et sœurs. Ça faisait du bruit, bedding, bedang dans la maison, on échappe des affaires, puis on chante dehors, on s'amuse, on fait la révolution, on est des baby-boomers, mais là, oups, on veut mourir comme ça nous tente de mourir, on veut manger à 5 heures. Puis quand on va être tanné, ben il y a l'aide médicale à mourir.
J'aime tellement que tu rappelles à ces gens-là qu'ils ont été jeunes et qu'ils sont eux aussi sortis dans les rues et qu'ils ont eux aussi joué dehors. Faut jamais, jamais, jamais oublier ça. Moi, j'ai 2 ados à maison, puis j'oublierai jamais mes moments de folie à leur âge et je tolère leurs moments de folie jusqu'à ce que ça soit déraisonnable.
C'est exactement ça. Puis je veux dire, on parle aussi, si je ne me suis pas trompé, si mon travail démographique est exact puis qu'il s'agit vraiment de la génération des baby-boomers, on parle non seulement d'une génération qui a fait du bruit, mais on parle de celle qui en a le fait le plus. On parle d'une génération qui a tout changé, qui a tout bousculé, qui a envoyé un gros finger dans les airs à la génération avant elle. Donc, elle devrait être tout simplement heureuse et honorable devant le bruit que font des jeunes 15 fois par année.
Exactement. Merci Rémi de me rassurer qu'on n'a pas mis tous les citoyens de Québec dans le même sac et qu'on s'est rendu compte que c'était des gens malheureusement qui ont manqué de jugement. Rémi, on parle régulièrement...
Mais là, attends, je t'interromps 2 secondes. Si j'ai fait ça, c'est à votre tour maintenant de ne pas mettre tous les gens de Montréal dans le même paquet la prochaine fois.
Mais t'as raison, c'est exactement ce que je vais faire. Je te remercie grandement et je vais prêcher par l'exemple, mon ami. Rémi, on parle régulièrement d'éducation ici sur les ondes de Boulevard 102.1 et régulièrement on dit il manque de personnel, il manque d'argent, il manque de soutien aux directions, il manque de soutien dans les classes. Mais est-ce qu'il manque vraiment d'argent en éducation? Tu t'es penché sur cette question-là?
Bien, en fait, moi je pense que d'un point de vue factuel, il peut manquer d'argent. Par contre, il n'y en a pas de moins en moins. Ça, je regrette, là, mais si vous regardez les budgets du ministre Girard depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018, l'augmentation du budget du ministère de l'Éducation, c'est de l'ordre de 60 %. Cette année, on a un budget à 23,5 milliards. C'est le deuxième poste de dépense après le ministère de la Santé. Si vous regardez, il y a des vrais ministères qui perdent de l'argent, là, qui se ramassent avec de moins en moins d'argent. C'est-à-dire que, oui, il y a une augmentation du budget, mais elle est en bas de l'inflation ou elle frôle l'inflation. L'augmentation du budget du ministère de l'Éducation cette année, c'est 5 %. Donc, on est bien au-delà de l'inflation. Ça veut dire que factuellement, là, comptablement parlant, il y a une augmentation du budget. Puis moi, presque à tous les gens à qui je parle, là, des parents, des élèves, des professeurs au secondaire, au primaire, au cégep, des syndicats, des présidents de fédérations, de direction d'établissement, tout le monde me dit toujours la même affaire. Ils me disent « sur le terrain, on a besoin d'argent ». Je dis « ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'argent sur le terrain et que je vous apprends, si vous ne le saviez pas déjà, qu'il y a de plus en plus d'argent dans vos coffres, peut-être que le coupable, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le contribuable qui est de moins en moins de votre bord, c'est vos patrons immédiats, c'est l'école blanche, c'est les centres de services scolaires, c'est les gens qui contrôlent le budget qu'on vous donne et qui est de plus en plus intense. Tu sais, je regarde cette semaine, juste cette semaine, là, je ne suis même pas allé fouiller bien loin.
Oui, vas-y.
Cette semaine, je vois passer, ben, ce matin, évidemment, 468 millions pour une école secondaire à Châteauguay.
Ouais.
Un demi-milliard. T'sais, je ne sais pas combien ça coûte une fusée, là, mais je pense que c'est à peu près ça. Là, là on parle d'une école. Là.
Non, en effet. Et Jonathan Julien, qui nous avait dit ici sur nos ondes, « Hey, checkez-moi bien aller, je suis ministre des Infrastructures. Les écoles, on a trouvé un moyen pour faire en sorte que ça coûte moins cher. On arrive avec ce résultat-là. C'est pas vrai. »
Ah non, 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 c'est déplorable. Puis tu sais, je t'ai dit ce matin, je vais vous parler de deux exemples qui sont un peu passés sous le silence parce que justement, il faut les nommer, ces exemples-là. Il y a une école à Montréal qui s'appelle l'école FACE. C'est une école publique. C'est une école qui est dans des bâtiments délabrés. Il faut les rénover. Mais par contre, c'est pas tout qui est à refaire, là. C'est un certain nombre de parties de l'établissement. Et là, on a fait appel à des entreprises en construction, à des architectes. Ils ont fait des soumissions. Et là, ça s'est rendu jusqu'au gouvernement. Le gouvernement qui a regardé le plan puis s'est dit, mais est-ce que vous êtes fous? Êtes-vous tombé sur la tête? Dans le plan initial, il était question de mettre une cour de récréation sur le toit, de déplacer la cafétéria qui est au quatrième étage, de la descendre au sous-sol. La cafétéria était correcte, là. OK? C'est juste une frivolerie, là, une extravagance, là. On veut une deuxième cour de récréation qui donne sur la cafétéria. Ah, on veut un tunnel qui passe de la cafétéria jusqu'à une salle qui est à refaire elle aussi. Heureusement, ça s'est rendu au sommet. Puis il y a quelqu'un qui a dit « ça n'a aucun bon sens ». Donc évidemment, il y a des gens qui nous écoutent qui pourraient me dire « mais Rémi, de quoi tu es en train de parler? Ça ne s'est pas produit ». Non, le sujet, c'est la culture de dépense. C'est l'idée même qu'on a pensé que ça pouvait marcher et… Heureusement, le fait qu'on a été arrêté juste à temps. Donc ça, c'est ambiant, c'est structurel.
C'est pas juste, Rémi, en éducation non plus. On le voit par la commission Galland, on voit par plusieurs reportages de journalistes des dépassements de coûts qui font pas de sens, où on a pesé sur le crayon au privé quand on a été contacté par le gouvernement puis les appels d'offres. Je me dis des fois avec ces sommes-là, et on se rapporte souvent à un abribus ici, là, qui est tout petit. Là. Je veux dire, ça ressemble à un cabanon qui nous a coûté en haut du million, là, en passant à Québec sur un coin de rue, puis on se dit, voyons, ça fait pas de sens, je veux dire, il y a pas de la nourriture à volonté pour tout le monde, puis il y a pas de couchette, puis il y a pas de quoi que ce soit, là, c'est vraiment, je te le jure, Rémi, un petit abribus, quand tu venais à Québec, Jeff, ça va faire plaisir d'aller te le montrer, ce qui a coûté extrêmement cher aux contribuables, mais je me dis, avec toutes ces sommes-là, où on a perdu, ou encore on a mal géré, ou on a accepté qu'on pousse sur le crayon, puis des fois, c'est correct, on voit avec les tarifs, il y a des explications, mais il y en a qui en manquent beaucoup, on pourrait avoir des écoles extraordinaires, les projets de Ricardo puis de Pierre, j'oublie le nom de famille, là, merde, qui est toujours dans le sport. Il y avait trois personnes qui avaient pris ça. Pierre Lavoie, merci. Et qui nous avait fait rêver avec des écoles spectaculaires. Bien, je pense qu'on pourrait. On pourrait s'en approcher. On pourrait avoir une éducation digne de ce nom, obtempérée pour avoir des jeunes qui ont le meilleur environnement possible pour performer, mais s'épanouir aussi. On pourrait peut-être même avoir des stades fermés. Tiens, pour le football, des fois, en arrière de certaines écoles où on n'entend aucun son, des paravents de son, peu importe. Mais ça construirait notre société à de hauts niveaux. Mais pour ça, c'est structurellement parlant, économiquement parlant, en échappant comme ça, puis en se laissant crosser, pour utiliser le terme, bien, on n'y arrive pas.
Bien, tout à fait. Puis je rappelle le projet de la CAQ il y a quelques années. Moi, j'avais trouvé ça absolument merveilleux. Je l'avais applaudi et je l'applaudirais encore aujourd'hui. On voulait construire des écoles New Wave, là, des super belles écoles. On en a construit une, je ne me rappelle plus dans quelle
région. Des écoles laboratoires qu'on appelait.
Des écoles laboratoires. Bien là, malheureusement, parce qu'on rate notre coup dans plein d'affaires et qu'il n'y en a plus d'argent, là, ces projets-là d'écoles formidables qui pourraient mettre le Québec sur la map, qui pourraient rendre le monde fier du Québec, bien, on ne peut plus aller de l'avant. Donc là, il y a des gens qui vont dire, ouais, bien, on passe d'argent dans ces projets-là. On l'avait dit dès le début que ce n'était pas de le faire. Non, c'était une bonne idée, ça, au départ, de faire ça, mais parce qu'on rate notre coup dans d'autres dossiers, là, il n'y en a plus d'argent. Un autre exemple qui est passé
en passant,
bien, à l'Université du Québec à Chicoutimi, là, on me dira, c'est le budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce n'est pas grave, c'est de l'argent qui est dédié en éducation, c'est de l'argent qui est contribuable.
Et ton but, c'est de parler de la culture, justement, cette culture dépensière-là.
Absolument. Il y a un conflit à l'Université du Québec à Chicoutimi qui oppose des professeurs, des collègues, là, les uns entre les autres depuis 2019. L'université n'a pas eu le choix d'engager des firmes d'avocats. C'est 500 000 $ qui a été facturé aux contribuables pour régler des problèmes entre des petits bébés avec des doctorats qui se chicanent avec des petits bébés avec des doctorats. Il faut aller lire l'article de Radio-Canada là-dessus. C'est impensable. On parle de gens qui sont des professeurs, les gens qui sont les plus élevés sur le plan académique au Québec, qui se chicanent entre eux autres, qui s'envoient des insultes dans le couloir, se traitent de gros, de petits, de ci, de moche, de ci. Et là, ben, il y a des cabinets d'avocats, dont un qui a facturé 200 000 $ mais la facture totale, c'est 500 000 $ Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, là, c'est qu'il y en a de l'argent. Moi, je le sais, par exemple, que dans tous les garde-robes de toutes les écoles secondaires du Québec, il y a des boîtes remplies d'iPads qu'on a achetées aux élèves pendant la pandémie puis qui ont à peine été utilisées et qui ne servent plus et qu'on pourrait revendre ou en tout cas au moins une partie de ces iPads-là, on pourrait les revendre. On pourrait aller chercher de l'argent là-dedans. Moi, j'avais reçu Nicolas Prévost à la radio il y a quelques mois. Il était alors président de la Fédération des directions d'établissement. Puis à ce moment-là, on était en juin ou juillet 2025. Bernard Drinville avait annoncé qu'il allait devoir faire... il n'y aurait pas 570 millions de plus dans les coffres des centres de services scolaires. Puis lui, il disait, on n'est pas capable de faire une compression. J'avais dit, êtes-vous vraiment pas capable? Dites-moi, est-ce que sérieusement, là, autour de là, s'il ne reste rien? Et ce monsieur-là, qui est d'ailleurs plus en poste, j'espère que ça n'a rien à voir avec l'entrevue qu'il m'a donnée, il m'a dit qu'il était capable de couper 300 millions de dollars.
Hey, t'imagines?
Ben non, mais c'est parce que c'est ça. C'est parce que plus on réfléchit, plus on regarde de son côté, plus on regarde en dessous de nos pieds, en dessous de notre tapis, on trouve du screening, on en trouve. Puis à un moment donné, du screening, puis des billets de 20$, ça donne des millions de dollars.
En effet, tu as entièrement raison. Si les directions d'école sont capables de couper 300 millions de dollars et s'il y a des dépenses superflues comme ça, il y a de l'argent présentement dans notre réseau. D'ailleurs, Fred qui nous écrit, des écoles au prix d'un centre Vidéotron, peut pas croire. En effet, quand une école est rendue au prix du centre Vidéotron, bien évidemment, il y a des dépassements de coûts. Rémi, je voulais parler avec toi également de Québec solidaire. On a parlé tout à l'heure avec Antonine Iaccarini du sondage Palace qui place la CAQ 4e à 11 %. Mais toi, tu voulais me parler de Québec solidaire parce que ce qui a attiré ton attention, c'est le vote des jeunes qui ne serait plus à Québec solidaire.
Bien, en fait, le vote des jeunes est à 12 %. Donc, les 18-34 ans est à 12 % à Québec solidaire, à égalité avec la CAQ. Alors, il y a autant de 18-34 ans.
Attends une minute, là. Il y a autant de jeunes qui voteraient Québec solidaire que la CAQ. Alors que dans la CAQ, on se dit, ben non, c'est des anciens péquistes, des anciens libéraux, c'est des anciens odéquistes. Puis là, ils retournent tous à la maison. Donc, quand on parle d'anciens, je vais reprendre tout à l'heure notre conversation, on parle de baby boomer, mais non, il y a autant de jeunes à la CAQ qu'à QS.
Oui, oui. Puis alors même que la CAQ, la QS, depuis des années, se targue d'être le parti de la jeunesse, puis des fois, de façon très arrogante et condescendante, dit ouais, ben, on a bien compris qu'on ne percerait pas en région, mais au moins, on a les jeunes de Montréal derrière nous. En passant, QS est dernier à Montréal, hein? juste pour que vous compreniez. Okay. Là, dernier à Montréal et dans la région métropolitaine. Dernier chez les femmes. Hein? Quand on dit
et pourtant, c'est un parti féministe.
Ben oui, dernier. Donc, dernier chez les femmes et les hommes. Dernier chez les non-francophones aussi. Donc, tu sais, cette espèce de stratégie visant à être un petit peu ambigu sur les prières de rue, dénoncer la loi 21, dénoncer la loi 96, dénoncer le discours xénophobe et raciste et mal, hein, le mot le plus populaire dans le vocabulaire de QS, sur l'immigration, ben ça leur vaut rien. Là, on se rend compte que QS est un parti cocu. C'est-à-dire que les clientèles qu'il convoite se retournent contre lui parce qu'on le sait que tu ne peux pas... Je veux dire, la plupart des immigrants dans la région de Montréal sont issus de sociétés, par exemple le Maghreb, les sociétés de l'Afrique du Nord où les rapports entre les hommes et les femmes ne sont pas exactement ceux que préconise, par exemple, Québec solidaire. On essaie de défendre les anglophones en disant, bon, la loi 96, c'est un peu exagéré, mais les anglophones, depuis que le Parti libéral a un chef, il se retourne évidemment vers ce parti-là. Donc, ce parti-là est cocu à vouloir défendre tout le monde, à vouloir essayer de faire l'espèce de contorsion gymnastique impossible entre toutes sortes de clientèles. Bien, ça n'arrive à rien. Et on se rend compte aussi, et ça, on le répète depuis des années, mais que ce parti-là est tout simplement déconnecté. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui plaisent aux Québécois. L'enjeu identitaire, l'enjeu de la langue, hein, et nouvellement, cette espèce de préoccupation-là pour les prières de rue. Que vous regardiez ça de haut ou pas, Québec solidaire, les Québécois, ça les inquiète. Et ils n'ont jamais été capables de prendre le pouls de cette population.
T'es-tu en train de dire, Rémi, que finalement, Québec solidaire se meurt?
Que Québec solidaire quoi?
Se meurt.
Ah, tout à fait. Ben, je pense que oui. Je pense qu'on parle beaucoup du décès annoncé de la CAQ, mais j'ai bien hâte de voir, y compris à Montréal, parce que je sais qu'à Québec, vous en avez des députés de Québec solidaire, mais je pense qu'à Montréal aussi, ça pourrait être toute une claque. Rosemont, Hochelaga, le plateau Mont-Royal, je pense que c'est plus protégé, là, au moins pour eux. Mais il y a des zones où ils pensaient être maîtres en leur domaine, c'est-à-dire le discours. D'avenir. Ah, parce que c'était ça aussi. On disait que
Avenir, environnement, énergie verte, donc vraiment, tu sais, multiculturalisme, mais ça percole pas chez les jeunes. Et d'ailleurs, on a un texto, j'ai 29 ans pour l'instant, je suis conservateur. Je penche vers ce parti par rapport à leurs promesses économiques. Tu fais partie de cette jeunesse de 18-34 ans, Rémi. Pascal aussi en fait partie. Les questions économiques sont très importantes pour vous, pour votre avenir fiscal et votre avenir à long terme.
C'est parce que plus on vieillit, plus on est touché par des grands enjeux, entre autres le loyer, le fait d'être propriétaire. On voit les impôts, nos payes, peut-être la difficulté aussi d'aller chercher des promotions ou juste d'être ajusté du côté salarial avec l'inflation, avec tout ce qui se passe. Il y a plusieurs entreprises qui en ont souffert. Je pense que là, c'est dans nos dents, dans une ère cruciale de notre vie où habituellement, on va en mettre de côté, on va investir, on va s'acheter des biens matériels qui vont perdurer. Je ne sais pas, Rémi, pour toi.
Bien, c'est tout à fait ça. Puis d'ailleurs, je fais une différence entre les 18-34 ans puis les 35-59 ans. Puis il faut la faire parce qu'ils sont sondés, ils appartiennent à deux catégories de sondages différentes. Mais moi, je pense que les jeunes, donc les 18-34 ans d'il y a 10 ans qui étaient derrière Québec solidaire, il y en a quelques-uns qui sont restés là parce qu'ils ont eu accès à la propriété. Ils ont réussi à s'en sortir un peu mieux. Mais les plus jeunes, ça ne m'étonne pas qu'il soit plus chez Éric Duhaime, parce que le sondage, c'est 19 %, hein?
Ouais.
19 % des 18-34 ans sont chez Éric Duhaime. Et là, vous avez 16 % des 35-49 ans qui sont au Parti conservateur et 13 % à Québec solidaire. Donc, il y a une chaude lutte entre Québec solidaire et le Parti conservateur chez les 35-49, alors que dans les 18-34 ans, la lutte, elle est moins serrée là, entre le Parti conservateur et QS. Donc, il y a eu peut-être une espèce de derniers privilèges économiques auxquels ont pu bénéficier les 35-49 ans-là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de voter QS. Moi, j'ai toujours vu le vote à QS comme un luxe. Vous pouvez vous permettre de voter QS quand vous avez eu votre maison, quand vous l'avez, votre bon travail, et que là, vous pouvez donner ce vote-là, hein, à chaque 4 ans, à un projet dit d'avenir, un peu utopique, un projet qui n'est pas exactement structuré à partir du réel. Donc, c'est un luxe qu'on se fait, c'est une petite coquetterie, voter QS. Mais quand on est 18-34 ans, puis qu'on se fait dire, ouais, mais ça va être pénible, la vie, là. Ça va être, vous savez que ça va être pénible, la vie, là, tu fais, OK, non, non, non. Là, je me retourne vers un discours qui est plus ancré dans le réel. Et ça, QS ne l'incarne pas, ne a jamais réussi à le faire.
En terminant, Rémi, plus ancré dans le réel et aussi plus individualiste, moi, ce que je vais pouvoir en retirer plutôt qu'un QS qui est tout le monde doit être sur le même pied d'égalité?
Ben oui, je pense que c'est ça aussi, mais en même temps, on regarde aussi QS qui se targue d'être le parti de tout le monde sur le pied d'égalité et le parti qui parle le plus de libertés individuelles aussi, là, hein?
Ça, c'est clair.
T'sais, on parle de le droit de ci, le droit de ça, ma confession religieuse, mon droit de faire ci, mon droit de faire ça, ma particularité, je suis une minorité, je suis une entreprise en soi, je suis un individu. Pas juste Éric Duhaime qui parle de ça. QS en parle énormément, puis je pense que les gens ont besoin d'un projet collectif. Et un projet collectif, bien, ça se conjugue au nous, pas au jeu.
Chose certaine, Rémi, QS aurait plutôt bien fait d'accepter la déclaration de Saguenay de Gabriel Nadeau-Dubois. Sûrement que ce parti-là ne serait pas où il est dans les sondages. Et puis pour Gabriel Nadeau-Dubois, je suis certain que tu es d'accord avec moi, je te fais une prédiction. Il va être de retour en politique avec un autre parti politique, puis il va briller à nouveau, là, c'est certain.
Oui, avec une petite escale dans les médias, je pense qu'il va être convoité, mieux payé, mais il va revenir probablement en politique. Peut-être même qu'il sera une sorte de Lucien Bouchard, c'est-à-dire un acteur qui viendra de l'extérieur lors du référendum. Je ne lui prête évidemment pas la même capacité à obtenir un succès. Mais quand va venir le temps pour le Parti québécois de bâtir le camp du oui, ils vont avoir besoin de toutes sortes de...
Ben, en attendant, Rémi, la place est libre. Je pense que tu cherches un co-animateur de soir à 18h au 99.5, donc à la retraite politique, la première retraite politique de Gabriel Nadeau-Dubois, tu l'inviteras.
Je vais l'inviter comme invité, mais je ne cherche pas de co-animateur, je vous le garantis.
Rémi Villemeux, vous pouvez l'entendre sur les ondes du 99.5 Montréal. C'est du lundi au jeudi de 18h à 19h et avec la collègue Jacinthe-Ève Harel les samedis de 8h à 10h. Rémi, merci beaucoup. On se reparle jeudi.
Bye-bye, oui, tout à fait.
Salut Rémi, merci encore une fois pour ta précieuse collaboration. Alors Rémi Villemur, que vous pouvez entendre les mardis et jeudis à l'émission On en jase le midi. Pascal, ça n'arrête pas par texto, c'est 24 ans conservateur. Hey, 30 à 40, on est conservateur. Hey, nous, on a plus des idéologies de droite, on a 26 ans. La jeunesse, tu sais, QS pensait que la jeunesse était à gauche, mais cette jeunesse-là tend à s'en aller vers des idées plus de droite économique.
Mais j'ai l'impression que les parents aussi ont un genre de pouvoir actuellement sur le discours. Pas une façon d'être persuasif, mais je pense qu'il y a une façon d'influencer qui est tangible en ce moment parce que les défis sont réels. Les défis économiques sont très, très réels. Auparavant, pour ceux qui avaient une chance d'en parler familialement parlant avec des parents qui étaient visionnaires de l'économie, mm-hmm. puis qui disaient « Ah, mettez-en de côté. » C'était « Mettez-en de côté pour des projets futurs. » Mais là, maintenant, c'est « Mettez-en de côté pour pas en manquer, pour être peut-être capable
ouais.
d'avoir avoir une maison à un moment donné, d'être propriétaire, les discours sont plus adaptés à si tu veux à espérer de fais-le maintenant versus
clairement.
Hey, mets-en de côté parce que tu vas être content le jour où. C'est plus le jour où, c'est si tu veux peut-être espérer. Puis ça je crois que ça rend en ligne beaucoup de choses. En même temps, tu as beaucoup d'esprits nomades, des gens qui veulent accéder à un genre de statu quo peut-être vraiment plus tard dans cette génération-là. Il y a quelque chose de très intéressant à aller voir, mais moi, je pense effectivement qu'il y a un petit peu plus d'économie qui commence à jaser versus nous quand on était jeunes, puis on est de deux générations différentes. Là.
Deux excellents textos qui viennent d'entrer. Continuez de nous écrire au 418-971-1021. J'ai eu accès à la propriété à partir de 23 ans. Je ne penche pas pour l'accès à la propriété, mais bien pour notre avenir économique. Je vote pour la génération après la mienne. C'est eux qui vont subir nos décisions aujourd'hui. Donc, ça explique pourquoi on est plus de droite économique. Quand tu n'as pas une scène et que tu paies beaucoup de taxes et d'impôts, tu votes à droite. En effet, quand on apprend que la SAC va peut-être augmenter nos permis de conduire après le fiasco, ça te fait peut-être voter pour autre chose. D'ailleurs, on fait une courte pause et par la suite, on revient en actualité complète avec Pascal CV. Et je veux vous parler du PQ et du Bloc québécois. Tu sais, ça s'était chicané après les élections fédérales. Ben, ils sont de retour main dans la main avec le caucus du Bloc québécois hier. Pascal Paradis, député de Jean Talon, était présent à ce caucus qui se tient dans la région de la Capitale-Nationale. Restez avec nous, on en jase le midi sur les ondes de Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Radio! Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parlé en semaine.
Hey, salut, c'est Audrey. Si vous pensez tout connaître sur la gang de Gravel dans le retour, ben non, je vous annonce que même si on vous compte pas mal d'affaires, vous savez pas tout. Cette semaine, écoutez les segments « C'est pas du réchauffé » présentés par Sebab pour connaître nos révélations et allez les inscrire au blvd.fm parce que vous pourriez gagner une machine à café.
Le Maurice. Je vous envoie souvent au Maurice parce que ben moi, je pense que c'est un endroit par prédilection où il faut noter où aller dans notre mois. Pourquoi? Ben pour dîner, pour souper, pour une ambiance, pour un cocktail, pour l'apéro. Sachez que au Maurice Restaurant Lounge, 8 drinks à 8 $ avant 8 h l'après-midi. Ça, c'est à guichet. C'est alléchant. Ce qui est alléchant aussi, c'est toute la table qu'on vous réserve. Premièrement, on vient d'ouvrir il y a un an. La salle est magnifique. C'est grand. Il y a de la place pour tout le monde, pour les groupes, pour une date, pour quelqu'un tout seul au comptoir. Ça m'arrive souvent de faire ça, puis je vous jure que je vous le recommande. Attendez pas certaines personnes pour aller manger. Faites-le. Allez rassasier vos sens, tiens. Découvrez des saveurs d'ici, travaillez avec une façon de faire spectaculaire. C'est goûteux, c'est bon, c'est une table avec des goûts soigneusement recherchés. Une expérience gastronomique qui est incomparable. Honnêtement, je connais plusieurs personnes qui y vont de façon régulière, qui vont juste commander plein de mets savoureux. Ils vont le mettre au centre de la table, ils vont partager ça ensemble parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. C'est des chefs qui sont renommés, qui ont travaillé sur la table. Même chose pour la carte des vins et des alcools. On est allé dans des importations intéressantes qui s'accordent vraiment bien avec ce qu'on vous propose. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a une belle carte dessert. Donc quand tu as le goût d'un petit sucré, puis tu dis ouais, moi je veux pas en faire à maison, ça se finit pas, ça se mange pas, ça me tente pas, je suis pas bon. Va au Maurice, on va t'en offrir un qui va être pas piqué des verres. Avec ou sans réservation pour une ambiance assurée pour un repas délicieux au Maurice sur Grande Allée.
Les soirées se... On en jase à Boulevard 102.1. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
On en jase, c'est de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 101 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Pour nous joindre, 418-971-1021. Julie nous écrit 66-56, 31 et 28 ans. On a tous voté conservateur aux dernières élections. Ça fait suite à notre conversation avec l'excellent animateur au 99.5, Rémi Villemur, sur le fait que les jeunes abandonnent Québec solidaire. Antoine, qui te donne raison, Pascal, c'est simple à expliquer, comme dit Pascal. Avec l'inflation, la hausse à la consommation et tous les aspects économiques que l'on vit en ce moment, même les gens, mènent les gens à se virer vers la droite, et ces gens sont des parents aujourd'hui qu'ils parlent à leurs enfants. Alors, en effet, il y a ce profil d'éducation-là, de pédagogie économique qu'amènent les gens à aller vers la droite. Et Daniel qui nous écrit « Mon fonds de pension est assuré, mes parents sont des boomers. » Ah, Daniel. Mais c'est, je disais à la blague, je suis chez mes parents dimanche soir, je disais « Vous vivez trop vieux à cette heure. C'est moi qui paye pour vous autres. »
Hey, tu sais, l'accident sur Dufresne-Montmorency récemment, là.
Oui.
Là, moi, quand ça arrive dans mon coin, je texte tout le temps deux, trois personnes que j'apprécie, puis j'ai dit « Êtes-vous correct qu'il y a un accident? » C'est un peu... Et là, la réponse de mon père, ça a été « T'as pas encore d'héritage, on est top shape. » Là, je suis capable de dire la référence de l'accident parce que tout le monde est comme blessé de façon mineure, là, mais
exactement.
Franchement.
Non, c'est ça, franchement. Météo, on annonce 22 degrés au maximum aujourd'hui, c'est 18 à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on va l'atteindre? C'est une bonne question. Généralement ensoleillé 23 demain et ensoleillé 20 degrés pour jeudi. Au sport hier, grosse victoire des Vikings du Minnesota au premier Monday Night de la saison, 27 à 24. Les Vikings ont marqué 21 points au quatrième quart. Deux passes de Chien, un touché par la course pour la recrue J.J. McCarthy, l'excellent quart arrière qui a été absent toute la saison dernière en raison d'une blessure au genou. Lui, il a gagné le championnat national avec l'Université du Michigan. Les Capitales de Québec, ça commence ce soir à Tri-City. Premier match d'une série 3-5 contre les Valley Cats. Les Capitales ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs contre Tri-City lors de la saison régulière, donc ça va être intéressant à surveiller. Et toujours au baseball, les Jays de Toronto qui reçoivent les Astros de Houston pour une série de 3 matchs à compter de ce soir. Les Jays ont 82 victoires depuis le début de la saison, 2 matchs devant les Yankees au sommet de l'Est. Série très importante face aux Astros parce que les Astros ont 78 victoires. Ils sont au 3e rang de la Ligue américaine et les deux premières positions, les Jays sont... premier à l'heure actuelle, ont un laissé-passer en première ronde des éliminatoires. Pascal, au niveau de l'actualité, on commence avec ce fiasco satellite et cette augmentation de permis de conduire.
Oui, habituellement, ça vise beaucoup le gouvernement en ce moment, puis les gens qui ont travaillé au sein du gouvernement quand on parle du fiasco SAAQ-CLIC, mais là, peut-être que ça vous vise un peu plus parce qu'on voudrait augmenter les frais aux conducteurs pour rembourser le déficit. Vous avez bien entendu, on a mal mené ça, on a mal géré ça au gouvernement, fait qu'on se dit, ben, il va falloir aller chercher l'argent qu'on a perdu.
Attends,
on a
Pascal,
un déficit
Pascal,
financier.
Ouvre ta poche, le gouvernement. Non, ferme-le, le gouvernement vient piger dedans. Ferme-le vite!
On envisage, d'augmenter les frais administratifs qui vous sont facturés, vous, conducteurs, pour cesser l'hémorragie. On n'a pas de montant pour l'instant, mais sachez qu'à la commission Galland, il y a un document qui a été présenté à l'ex-vice-présidente aux finances. Elle s'appelle Francine Lépiné et on montre littéralement les stratégies envisagées pour renflouer les coffres de la société. Bien sûr, on y va avec la façon facile, révision de l'affectation des activités et certainement aller puiser dans vos poches. Alors, c'est ce qui fait un peu bondir le mécontentement en ce moment, en se disant, voilà, c'est ajouter l'insulte à l'injure. Honnêtement, l'année 2024, le déficit projeté là, pour la société d'État, c'est 182 millions de dollars. Au cumulé, 492 millions de dollars.
Ça n'a aucun sens. La SAC a géré ses finances comme les sociétés de transport en commun, c'est-à-dire à coût de large déficit, alors qu'on n'est pas censé en faire. Excellent texto ici. Expliquez-moi, s'il vous plaît, vous disiez que le Québec est de plus en plus à droite. Alors, pourquoi le Québec a fait l'inverse quand vient le temps de voter au niveau fédéral? Une excellente question et d'ailleurs, il y a plusieurs analystes qui se la posent. J'écoutais justement Yves-François Blanchet qui est présentement en point de presse à la fin du caucus du Bloc québécois. On a beaucoup parlé de Mark Carney, de son CV. Je crois que ça a eu un impact énorme sur les dernières élections. À savoir, on voulait mettre la personne qui serait le plus qualifié pour négocier avec Donald Trump et on a fait fi de l'échiquier droite-gauche. On s'est vraiment concentré sur la guerre tarifaire. T'es d'accord avec moi, Pascal?
Ben, c'est vraiment ce que je vois parce que sinon, Pierre Poilievre était en avance dans les sondages pendant longtemps.
Oui.
Donald Trump est arrivé. On a vu un genre de défaillance au niveau des conservateurs pour aller garder l'intérêt. Puis on a amené ce nouveau cheval-là qui est Mark Carney avec un CV étoffé. Plusieurs plusieurs criaient à faire attention parce qu'ils étaient très près de Justin Trudeau pendant les crises financières, donc qu'il y aurait eu un peu cette gestion-là à la Trudeau auparavant. Est-ce que ce sera ça? Mais après 6 mois, on peut se dire que ça se concrétise un peu, le bilan habituel, la façon de gérer du fédéral dans le Parti libéral qui se continue. Donc, c'est plus en continuité qu'en changement. L'application Carney ressemble un peu à celle Trudeau. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, mais qui se disaient, ah non, il faut agir immédiatement, puis ça semblait être la solution. Parce que pour Poilievre, je ne sais pas si tu avais vu, mais c'était très divisé aux élections. C'était des gens qui se disaient, économiquement, je veux aller voter conservateur au fédéral, mais socialement, je m'y rattache moins.
En effet.
Pierre Poilievre avait de la misère à se dissocier de Donald Trump. Quand Donald Trump est arrivé avec ses tarifs au niveau social,
en effet, t'as entièrement raison.
Quand Donald Trump est arrivé avec ses tarifs, là, tout le monde disait, on veut encore moins de quelqu'un qui ressemble à Donald Trump. Et ça a beaucoup joué avec la venue aussi du nouveau cheval économique.
Il n'a pas été capable de se détacher justement de cette image-là. T'as entièrement raison. Par texto, ça passe pas du tout, hein, les gens qui... l'augmentation des permis de conduire. Pourquoi ils prennent pas l'argent dans leur poche? C'est eux les responsables qu'on nous écrit. Pourquoi ma chum paye son permis 26 puis moi 36? Bonne question, Daniel. Ça doit être parce que t'as des points de démérite. Donc, et comme le disait Yvon Deschamps, on est socialiste d'esprit, communiste de cœur et capitaliste de poche. J'avais jamais entendu cette citation-là. Comme aux États-Unis, on vote démocrate, mais on veut vivre comme des républicains. Excellent texto. Merci beaucoup. Et je peux continuer à réagir au 418-971-1021.
Si l'envie vous prend de poser des gestes indécents, là, donc d'indécence, si ça vous tente de vous masturber en public, il faudrait que ça cesse, hein, parce que là, c'est 5 autres dossiers similaires qu'on a ouverts depuis la fin août là-dessus. C'est pas trop ce qui se passe à Québec.
C'est pas trop
ce qu'il y a dans l'eau. Mais gestes indécents de
plus... Pourtant, il fait pas si chaud que ça, là, ces temps-ci, là, quand même, là, pour sortir le moineau.
Chaud, pas chaud. Gardez-le dans vos pantalons. Mais oui, on a un autre homme qui s'est masturbé devant une résidence et qui a été intercepté par les policiers. C'est un homme connu pour ses délits de nature sexuelle. Il a été arrêté à nouveau dans la nuit de lundi à mardi, donc la nuit dernière. Il s'est masturbé devant les fenêtres d'une résidence de Limoilou. Essayez d'imaginer la scène. Non, imaginez pas trop la scène. Mais vous comprenez que c'est quelque peu épouvantable.
Oui.
Et on a reçu un appel pour signaler le comportement. Félicitations. Donc, l'homme de 41 ans vers minuit qui s'est vu intercepté par les patrouilleurs et maîtres chiens. Donc, on s'est dirigé sur les lieux. On a arrêté rapidement la personne qui s'adonnait au geste indécent. Comme je vous disais, c'est pas ses premières frasques du genre. Il a aussi été arrêté pour bris de condition. Les surveillances avaient été initiées pour mettre la main au collet d'un suspect, c'est ce qu'on dit, mais depuis quelques semaines, c'est au moins 5 dossiers là, similaires qui étaient venus aux oreilles du corps de police. On n'est pas capable de tous les lier à l'homme pour le moment, mais il est rencontré par les enquêteurs au moment où l'on se parle. Il devrait comparaître aussi en après-midi, donc dans les prochaines minutes, les prochaines heures, ici au Palais de justice de Québec. Est-ce que c'était la même personne? Bonne question, mais chose certaine, on l'a intercepté, puis ça va toujours me rappeler les propos d'une psychiatre qui travaille avec les délinquants sexuels. Des fois, on est un peu surpris. Des fois, c'est pas vraiment le mot. Je pense qu'on est surpris.
Très si ça nous surpris. Moi, je me mets là, dans la peau de la personne qui tombe face à face.
T'ouvres ta fenêtre, t'as chaud.
Ouf! Tu fais un méchant.
Tu voulais un courant d'air frais?
Non, tu fais un méchant.
C'est plus un traumatisme qui te rentre à grands pas dans ton
chantier. Ça, c'est la crainte que ça amène, justement. Ben, de savoir qu'il y a quelqu'un à ton domicile qui est en train de faire ça.
Si tu surveillais sûrement. Tout ça me donne des frissons en colonne vertébrale. Mais des fois, tu vas croiser des gestes d'indécence comme ça, peu importe où t'es, puis tu vas un peu en rire. Moi, ça m'est arrivé en Espagne, Jeff. On s'était fait suivre par un homme, vraiment le prototype, là, le préjugé, le stéréotype par excellence.
Avec un long manteau?
Le trench coat. Ah, plein 25 degrés de soir, qui nous suit, deux jeunes filles, puis on arrive à l'auberge de jeunesse, on rentre, puis lui, as long, il te fait l'hélicoptère, puis il nous regarde, puis tu sais, sur le coup, t'es crampé parce que t'es comme, qu'est-ce qui est en train de se passer?
Qu'est-ce qui se passe, là?
Mais la psychiatre a toujours dit, rapidement, vous appelez les policiers, parce que des fois, c'est juste le début de comportement de délinquant sexuel.
Ça peut être le départ.
Ça pourrait aller plus loin. Une fois que quelqu'un a un peu assouvi son désir de surprendre, mais où est-ce qu'il va aller pour assouvir d'autres de ses pentes de déviance sexuelle? Donc, jamais juste rire, toujours appeler les policiers, prendre un descriptif.
Prendre au sérieux parce qu'on pourrait passer à des actes plus répréhensibles jusqu'à l'agression sexuelle. Éric, par contre, qui fait quand même une bonne blague, masturbation en public, une enquête doit être mise en branle.
Oui. Alors, il y a eu plusieurs va-et-vient en termes d'informations au niveau des policiers, mais on a réussi à intercepter...
On a réussi à intercepter
un suspect aujourd'hui. Dominique Laroche, bon, c'est sûr que de sauter de cette nouvelle à celle-ci, il va falloir faire un genre de dissociation, mais
vraiment.
Vous le savez, un homme de 65 ans, très connu ici dans la région, ex-skieur, entraîneur de ski acrobatique aussi, qui a été, très populaire là, dans la grande région de Québec
très populaire.
Il a été coupable de 5 des 6 chefs d'accusation qui pesaient contre lui hier au Palais de justice de Québec. C'est tombé. Donc, on s'attendait à aller le chercher aujourd'hui. En fait, qu'il s'en vienne au Palais de justice pour l'incarcérer. L'affaire, c'est qu'on a appris qu'il aurait attenté à ses jours après avoir été reconnu coupable de crimes sexuels. Donc, il était attendu ce matin pour une requête visant à le faire incarcérer immédiatement. Mm-hmm. Et il a plutôt été hospitalisé pour tentative de suicide. Donc, mandat d'arrestation important au terme de cette courte audience-là hier où il se trouvait seul dans la salle avec les proches de la victime. Et l'avocat de la Roche a confirmé qu'il va être hospitalisé au cours des prochaines heures. Donc, on ne sait pas trop à quel moment on va être capable de l'incarcérer. Pour l'instant, on est là. Donc, ça a permis aux délinquants de rester en liberté dans les dernières heures et de procéder à cette acte-là, c'est ce qui fait beaucoup jaser au Palais de justice. Si vous voulez réentendre Pierre-Paul Biron du Journal de Québec, on a eu un court dossier avec lui sur l'heure de 12h30 aujourd'hui.
Exactement. Je vais faire entendre l'extrait qu'on n'avait pas fait jouer, c'est-à-dire les gens, normalement, soutiennent ces vedettes-là. Toi, on a qu'à penser...
Je ne vais pas faire une généralité, mais on se posait la question, toi et moi, sur... Hey, tu sais, psychologiquement, on ne comprend pas des gens qui trippent sur un Luca, Rocco Maiotta...
Paul Bernardo, qu'on avait parlé.
Paul Bernardo, des gens qui deviennent comme des vedettes, en fait, après leur crime.
Exactement.
Mais c'est surtout les vedettes qui deviennent criminels par le procès, par le processus judiciaire, qui souvent vont avoir des gens qui vont... Non. Là, ça, c'est un homme qu'on a aimé. On ne veut pas aller là. Et la question, je l'ai posée parce que je me dis, y avait-tu des gens qui le soutenaient en cours? Et Pierre-Paul Biron m'a répondu.
Dominique Laroche, lors du prononcé du verdict hier, s'est présenté seul au palais de justice. La salle était remplie, mais elle était remplie de gens qui venaient supporter la plaignante. Moi, au cours du procès, j'ai jamais vu Dominique Laroche accompagné au palais de justice de qui que ce soit. Il a affronté ça seul. Donc, c'est difficile de déterminer s'il y a des gens qui continuent de l'appuyer ou de ne pas croire à ça une fois qu'il a été reconnu coupable. C'est difficile de l'évaluer. Mais je vous dirais que c'est un dossier qui attirait beaucoup l'attention. Moi, j'ai reçu beaucoup de courriels de lecteurs qui me demandaient ce sera quand le jugement. C'était vraiment une décision qui était attendu, on le sait, Laroche, là, cette aura d'anciens champions, c'était courtier immobilier très connu dans la région, c'est une famille que tout le monde connaît aussi dans la grande région de Québec. Donc, évidemment, il y avait beaucoup d'intérêt pour tout ce qui entourait ce dossier-là. Mais je pense que la décision de la juge Gilbert, on parle d'une décision d'une cinquantaine de pages, elle a lu hier pendant près de 2 heures cette décision-là, une décision qui est extrêmement bien étoffée, les motifs sont bien expliqués, bien justifiés, et je pense que ça vient pour l'instant dissiper les doutes que certaines personnes pourraient avoir sur la culpabilité de Dominique Laroche. Puis je l'écrivais dans mon papier de ce matin, ce vernis-là, cette aura-là de Dominique Laroche est, je pense, entachée de façon irrémédiable par le verdict qui a été prononcé hier, parce que je pense que maintenant Dominique Laroche est perçu plus comme un agresseur sexuel que comme un ancien champion de ski là, comme il l'a été toute sa carrière.
Il semble pas avoir beaucoup de flou là-dedans, ça semble être coupé au couteau là, franc. Celui qui s'est présenté constamment à son procès seul avec pas de soutien de proches autour de lui. Malgré tout, je vous rappelle que tout au long du procès, il y a eu une immense dichotomie entre le discours de la victime et celui de Dominique Laroche qui se disait, là, depuis le début, face à quelqu'un qui était consentant dans les rapports sexuels.
Qui était rendu à l'âge adulte.
Et aussi, lui, il dit que tout le long où ils ont eu des relations sexuelles, elle était majeure, donc rien en bas
Exactement.
De l'âge de 18 ans. Et c'était pas du tout le discours de la victime qui a été retenu. Et finalement, vous le savez, il a été coupable des 5 sur 6 chefs d'accusation. Celui où il n'est pas coupable, Dominique Laroche, c'est celui après 18 ans, justement. Donc, quand elle était majeure, on a reconnu qu'elle était consentante à ce moment-là, mais on a retenu tout le reste où elle avait été un peu brainwashée par l'homme, par l'adulation qu'elle lui portait, par le pouvoir que lui avait sur elle.
Exactement. Et je crois que quand les enquêteurs ont découvert cette fameuse chambre du sexe-là, cette pièce avec plein d'objets sexuels, c'est peut-être là que les proches ont fait « OK, c'est trop pour moi ».
Il y a un autre dossier intéressant, des véhicules qui étaient entreposés près de la gare de Charny avant d'être acheminés ailleurs dans la province ont trouvé un autre dessin que celui de vous conduire à Bonport. Il y a de la drogue qui a été trouvée chez plusieurs concessionnaires ici au Québec puis au Nouveau-Brunswick aussi. Plusieurs concessionnaires Ford du Québec et du Nouveau-Brunswick, on a signalé aux autorités qu'on avait découvert cette drogue-là dans des véhicules qui étaient neufs, donc des modèles bien précis. On a reçu ces informations-là et l'enquête a été amorcée. Les premiers paquets de stupéfiants ont été trouvés dans les véhicules de la galerie Ford à Jonquière et Perron Ford à Chicoutimi. Ça fait une demi-douzaine d'escouades de corps policiers qui ont été déployés pour tenter de faire la lumière là-dessus. Puis il y a plusieurs concessionnaires qui ont signalé des situations similaires dans les dernières 24 heures. Alors, saisie qui vise principalement concessionnaires automobiles du Saguenay, de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et de Rivière-du-Loup. Alors, 2 sur 4 ici. Et c'est la Sûreté du Québec qui nous a donné cette information-là par voie de communiqué, notamment le cas de l'ange gardien Ford, ici, là, à Québec, là. Donc, qui a été visé par tout ça. Et la Gendarmerie royale du Canada qui a perquisitionné aussi du côté du Nouveau-Brunswick.
Assez questionnant, justement, comme situation. Demain, à l'émission, Pascal, on va avoir évidemment Antonine Iaccarini dans le caucus Iaccarini et Lambert Drainville à 13h. On va revenir sur ce remaniement ministériel qui aura lieu à 14h. Mais normalement, à midi, on devrait pas mal savoir tout. Hein? C'est qui est retenu? C'est qui est pas retenu? Qui
ça peut
est
être
où?
Même en matinée.
Ben, c'est ça. J'ai l'impression que dans le show du matin avec Yannick Marceau, on va déjà en savoir pas mal et on va pouvoir commenter, évidemment. Sinon, pour le reste de notre programmation, c'est le retour de Gravel qui arrive en onde dans quelques instants avec Denis, Véro et Audrey. Je sais que Denis veut entre autres avoir une conversation sur les 20 ans de couple radio entre lui et Véro. Je pense qu'on va entendre des anecdotes très, très, très savoureuses. Marceau le soir qui suit à 18h. Et nous, on est de retour à midi à On en jase, tout de suite après le point de Max qui est de 10h à midi. Pascal, bonne fin de journée.
À toi aussi.
Amuse-toi bien. C'était très, très, très plaisant comme émission. On se laisse et c'est Gravel dans le retour qui s'en vient. On en jase.